Salut à toutes et à tous, dimanche soir 18h, c'est grand live géopolitique profonde. Alors là, comme toutes les semaines, on va avoir un économiste de renom. Aujourd'hui, le gaulliste social, est-ce que je peux dire gaulliste social, cher Philippe? Économiste, bien sûr, que vous connaissez, que vous voyez partout, il est présent, voilà, partout, hein. Vous le voyez partout, c'est peut-être... le tiercé des grands économistes de la place de Paris. Salut cher Philippe, comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Ben voilà, surtout qu'en plus on s'est vu hier, hein, c'est sympathique hier d'ailleurs, en manif. Hein, j'ai pu te filmer en manif hier. Alors aujourd'hui, on va parler de choses quand même assez importantes. On va parler de l'Union européenne, on va parler de l'abondance hein, quand même. Tout ce qui est, enfin cette phrase-là de l'abondance de M. Macron, je pense qu'il faut en parler. Et évidemment, on va parler d'énergie. Alors, pour te présenter un peu, même si les gens te connaissent, tu as une spécialité que nombre d'économistes n'ont pas, et peut-être même méprisent un peu, c'est celle de l'écologie. Enfin, plutôt de l'environnement, plutôt, parce que l'écologie, ça c'est le truc un peu...
Ouais, tu vois, de l'écologie, mais pas de l'écologie ELV. Voilà, et voilà. Le livre que je préfère et que j'ai réalisé, qui s'appelle « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant » et qui explique comment on peut faire de l'écologie, mais à l'inverse d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire c'est pas de pénurie, pas de décroissance, mais quelque chose de maîtrisé par la planification pour avoir de l'énergie pas chère, tout recycler, faire de l'agriculture 100% bio, mais pas en décroissance, tu vois.
Mais comment ça t'est venu, ça? Parce que faut se dire les choses, les économistes, cette forme d'écologie n'en parle pas beaucoup. En plus, toi, tu ne viens pas de ce monde. À quel moment tu t'es dit, tiens, peut-être malgré tout, c'est quand même un sujet qui importe?
En 2012-2013, tu vois, j'étais passionné par ça, j'aimais bien, je lisais des choses et je me suis dit, il se passe quelque chose, on peut faire vraiment quelque chose d'énorme et se passer d'énergie fossile parce qu'on a un problème de pic de pétrole à un moment donné, de pétrole qui manquera. Il fallait alerter dessus et montrer qu'on pouvait faire quelque chose de complètement différent. Donc, j'ai bossé pendant 6 mois pour faire un bouquin qui s'appelait « La transition énergétique, une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés », où je montrais qu'on pouvait créer plein d'emplois en France, avoir une énergie moins chère avec du nucléaire, mais aussi, si on le voulait, des énergies renouvelables, avec une manière particulière, en mettant de l'hydrogène. Voilà, c'est à ce moment-là, tu vois, que j'ai commencé à le faire. Et après, je me suis intéressé à tous les autres sujets, petit à petit. Et là, le bouquin, c'est 7 ans d'expérience et de travail sur l'écologie que je mets en papier avec des solutions concrètes sur tous les sujets.
Oui, parce que il faut se dire aussi les choses. Le pétrole n'est pas illimité. À un moment donné, ce pétrole, bah, il va manquer.
Ah bah, tu sais, le truc qui est clair, je donne une anecdote, mais qui est très importante, c'est que Aramco, l'entreprise qui a le plus de pétrole au monde, puisque c'est toutes les exportations et la production de pétrole d'Arabie Saoudite, a dit récemment, il nous reste 1 million de barils jour à augmenter en production d'ici quelques années. Et après, en fait, ça va, on sera sur un plateau, voire ça décroîtra. Tu vois, il faut comprendre que le monde entier consomme de plus en plus de pétrole, malgré tout. 1 million de barils jour en plus à peu près chaque année. Et donc, si l'Arabie Saoudite n'y arrive plus, alors que le Royaume-Uni a déjà décru ses exportations de pétrole de façon très importante, que beaucoup de pays voient une décroissance ou une stabilité de leur production, eh ben, on ne va pas y arriver. Et quand ce pic pétrolier sera là, ça mettra un pétrole à 300-400 $, toutes les énergies qui explosent. Et là, vraiment, ça sera dangereux. Et il faudra que les pays soient préparés. Et les pays qui seront préparés s'en tireront de loin le mieux. Les autres auront des désordres sociaux et économiques absolument considérables.
Alors, le sujet vraiment de ce live, c'est de dire, voilà, serons-nous des clochards dans un an? Parce qu'on sent vraiment... qu'entre il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est-à-dire au début de la crise sanitaire et aujourd'hui, on sent vraiment, pour le coup, un vrai déclassement en très peu de temps. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ah oui, il y a un déclassement, il y a un déclin de la France. Et moi, je crains clairement un effondrement économique de la France. Ça va toucher les ménages parce qu'on a une énergie qui va être chère, qui va être rare. Il y aura potentiellement des pénuries. On peut expliquer pourquoi. Même il y a un gros risque de pénurie avec une énergie très chère. Et tu vois, l'énergie, c'est 3 000 euros dans le budget des ménages par an. Donc, un ménage de gens au SMIC ou avec une personne qui a 1 800 euros par mois, ça va poser des problèmes absolument gravissimes. Moi, j'ai des gens qui travaillent dans des entreprises et qui me disent, voilà, les salariés, ils nous demandent le 10 du mois des avances sur salaire parce qu'ils n'y arrivent plus. On en est là, quoi. Il y a des gens qui ont faim et qui n'y arrivent plus.
Mais regarde, t'as entendu cette nouvelle qui venait de Belgique, qui a expliqué qu'en 2023, justement, cette énergie au niveau des factures des particuliers, pas des entreprises, allait coûter entre 7 000 et 10 000 euros par an. Sachant que ce qui se passe en Belgique arrive souvent en France, est-ce que c'est le risque qui peut arriver dans notre pays ?
Alors, effectivement, c'est BFM qui a sorti l'information d'un chercheur, d'un expert qui a calculé qu'en Belgique, les factures gaz et électricité, ça serait 7 à 10 000 euros par mois, ce qui est complètement
par dingue.
Par an. Ce qui est complètement dingue pour un ménage, absolument hors de portée de beaucoup de gens. Il faut voir qu'au Royaume-Uni, on est à plus 80% aujourd'hui sur les factures d'électricité. Il faut voir qu'en Allemagne, le gaz, par exemple, a doublé dans certaines régions. Donc, tu as 1 500 euros de facture de gaz moyenne pour les gens, et ben, tu passes à 3 000. Donc, tu les ratiboises complètement. Tu vois ? Donc, il y a vraiment un risque. En France, aujourd'hui, normalement, les factures de gaz et d'électricité auraient dû à peu près doubler. Hein, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, mais moi, c'est ce que j'avais calculé sur un bout de papier, en n'ayant pas toutes les données, tu vois, en extrapolant. Doubler. Ce qui veut dire que tu passerais, les gens, ils auraient 70 euros d'électricité en plus chaque mois, en moyenne, et les gens qui sont au chauffage au gaz, eh bien, ils auraient 1 400 euros de plus par an, donc 100 euros. Donc, ça serait 170 euros bouffés sur le budget de chaque ménage. Donc, ça serait très, très compliqué à vivre.
170 euros par mois, c'est ça ?
Par mois, voilà. Heureusement, il y a le bouclier tarifaire du gouvernement, donc il nous coûte très cher, hein, c'est 40 milliards d'euros à peu près pour l'énergie depuis le début de l'année, 40 milliards d'euros de dette en plus. Mais le gouvernement, il a dit que de toute manière, au début 2023, il y aura des hausses de prix des factures parce que le gouvernement ne va pas pouvoir tenir, l'État ne va pas pouvoir tout payer. Et donc, on risque d'avoir des factures de plus 20%. Mais si tu veux, donc ça va être dur pour les gens, hein, des factures de 20% sur des gens qui sont à 20 euros près, ça va être très, très violent, quoi.
Alors, tu as un petit coucou là de Olivier Piacentini. Salut Mike et Philippe, bonne émission. Allez-y à fond contre l'horreur du système. Je suis avec vous. Olivier était là la semaine dernière. Avec qui tu as travaillé, d'ailleurs, Olivier Piacentini. Vous avez travaillé ensemble sur un rapport, je crois.
Oui, on a fait des choses ensemble. Et puis moi, je le respecte beaucoup. C'est un excellent économiste et qu'en plus, a beaucoup de bon sens. C'est très bonnes idées en géopolitique. Il voit très bien l'horizon économique et politique, quoi. C'est quelqu'un de brillant.
Alors, tu as parlé en début d'émission de pénurie. Mais moi, ce que je vois des fois sur les réseaux sociaux, c'est que les gens nous disent « Oui, mais tout ça, c'est organisé. » Alors, toi, en tant qu'économiste, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que en effet, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire l'inflation, les hausses de l'énergie, les pénuries, c'est organisé par un État qui se dit « Tiens, on va rentrer plus facilement ainsi dans le Great Reset ?» Ou est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont peut-être des idiots finis, qui n'arrivent pas justement à gérer économiquement notre pays ?
Bah, c'est sûr que c'est des cyniques et des corrompus, mais aussi des incompétents. Ils n'arrivent pas à gérer le pays. Il faut quand même voir que Macron, il n'est pas très à l'aise d'avoir fermé Fessenheim il y a 2 ans, alors que maintenant, on manque d'électricité, tu vois, pour cet hiver, et qu'on est obligé d'en importer, et peut-être qu'on n'en trouvera certainement pas cet hiver quand ça sera froid. Donc, si tu veux, ce n'est pas pour le plaisir qu'ils sont nuls comme ça. C'est parce que vraiment, il y a une incompétence. Ces gens-là savent faire de la com, mais ils sont mauvais sur le reste. Et de toute manière, ils écoutent et ils suivent comme des toutous l'Union européenne pour ce qui concerne l'économie et pour la guerre, l'OTAN. Donc, de toute manière, ils font toutes les erreurs, quoi.
Mais est-ce que c'est voulu, ces erreurs, peut-être ?
Mais non, ce n'est pas voulu. Ils sont incompétents, quoi, très clairement. Parce que les erreurs qu'ils font, quand ils disent, par exemple, tu vois, Véran dit… il faut pas de masque, le masque sert à rien en fait au début du Covid pour dire 6 mois après, bah non, il faut absolument des masques. Tu vois bien qu'ils apparaissent comme des idiots, quoi. Des idiots complets du système. D'ailleurs, ils sont en risque parce que les gens les supportent plus à force de mentir. Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée, tu vois, il est sorti de l'Assemblée nationale, il est dans le privé parce qu'il a été viré de son poste de député. Les Français l'ont pas élu, il a encore une sécurité privée pour lui. Parce que les Français ne les supportent plus.
Mais regarde, voilà.
Et toi, il faut, c'est Rocard qui nous disait, je me permets de finir. Rocard, il disait, entre le complot et la connerie, toujours choisir la connerie. Parce que le complot nécessite une intelligence rare, alors que la connerie est courante.
Alors, mais regarde, tiens, je vais te mettre un petit commentaire, et tu vas donc du coup le commenter. Mani nous dit, encore en train de les dédouaner. Parce qu'il y a vraiment, les gens sont persuadés dans leur esprit qu'on a affaire à une élite de type vachement intelligent, mais qui sont perçus et qui font les choses sciemment pour un plan qui est derrière.
Sur le Covid, il y avait des choses sciemment, l'interdiction de tous les médicaments pour traiter, le fait que Véran n'ait même pas essayé par un essai scientifique français, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout et qui était coordonné. Là, c'est la bêtise. Il faut arrêter de les respecter en croyant que ces gens-là sont supérieurs à nous et géniaux. Ce sont des crétins. Ce sont des crétins. Ils font n'importe quoi, tu vois. Il faut bien le comprendre. C'est des gens qui, les gens qui croient qu'ils maîtrisent tout, en fait, ils respectent beaucoup trop nos élites qui sont d'un niveau franchement très, très bas en termes de compétences, très clairement.
Et pourquoi les gens, du coup, respectent encore ces élites? Est-ce qu'ils ont l'impression que ce sont des sachants, peut-être?
Peut-être. Et puis, il y a le fait qu'ils ont l'impression, si tu veux, que ces élites nous font tellement de mal par leur corruption, leur cynisme, mais aussi par leur bêtise, qu'en fait, bah, ces élites sont absolument géniales. Non, non, elles ne font pas tout exprès. Il y a plein de trucs, elles ne font pas exprès. Quand Macron, il a pendant un an les gilets jaunes dans la rue, tu vois, il n'a pas fait exprès. C'est juste parce qu'il les a provoqués à outrance, qu'il a augmenté le prix de l'essence sans se rendre compte que ça allait poser des problèmes à des millions et des millions de gens et qu'il se retrouve à devoir gérer pendant un an les gilets jaunes avec sa voiture qui est chassée, tu vois, à coups de pierre et les gens qui lui disent « on va te tuer », quoi, tu vois. Il a eu peur, quoi, à ce moment-là. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a aussi une part d'incompétence, quoi, très clair.
Mais parce que toi, tu es économiste, tu travailles aussi avec justement avec, enfin, je dis pas que tu travailles avec ces élites, mais tu imagines à un moment donné, tu dois les côtoyer. Oui. Est-ce que tu sens entre le début de ta carrière et aujourd'hui, en effet, un différentiel intellectuel?
Énorme, énorme. Il y a 30 ans, on avait des élites françaises qui étaient des vraies élites, qui avaient une intelligence, etc. On commençait à être dans la pensée unique européenne, mais ça, c'était pas mal. Mais ça s'est appauvri de façon absolument dramatique, quoi. En fait, maintenant, les gens les plus compétents sont souvent pas dans le système. Voilà. Les gens les plus compétents sont dans le système. C'est ce qu'on appelle une médiocratie. C'est ce qu'on appelle une médiocratie. C'est-à-dire que, et les gens vont le comprendre, ce qui se passe en politique, vous voyez les médiocres au pouvoir et les médiocres dans les médias, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de grandes entreprises où les incompétents et les médiocres sont promus. Là, c'est pour une autre raison. C'est à cause du fait que les entreprises sont devenues des machines à sous aux mains des actionnaires qui doivent cracher de l'argent. Donc, elles n'ont plus de sens, perdent de sens. Et il n'y a que les incompétents et surtout les gens qui sont d'un cynisme épouvantable et qui ne savent pas diriger les hommes qui peuvent diriger tout cela. Parce que les gens compétents qui aiment leur métier, tu vois, les professeurs Perron en médecine, ils se barrent de ce monde-là. Ils ne supportent plus parce que c'est juste insupportable. Eux, ils ont envie de soigner. Eh ben non, il était chef de clinique, il a été viré. Et alors, on a promu Karine Lacombe, tu vois, qui est d'une nullité, vous le voyez bien. Karine Lacombe, c'est la nullité crasse. Tu comprends?
Bien sûr.
Voilà ce que je pense. On a une médiocratie qui s'empare de tout ça, du pouvoir, effectivement, et c'est extrêmement dangereux pour les Français, quoi. C'est extrêmement dangereux. Mais c'est la promotion par l'incompétence.
Toi qui as été aussi dans les partis politiques, puisque tu as créé des programmes économiques pour des partis politiques, comment tu peux expliquer que des gens médiocres comme ça réussissent à aller en gros tout en haut de la pyramide?
Alors, moi, je sais pas, parce que j'étais au Rassemblement, au Front National, tu vois, 2014 à 2017, tant qu'ils tenaient leur ligne qui était de dire on veut notre souveraineté, notre capacité de décider pour changer le destin de la France. Et donc, je suis parti quand on a abandonné ce projet-là, parce que je voulais pas mentir aux gens, tout simplement. Là, on n'est plus dans le système, si tu veux, on est dans l'opposition au système. Normalement, l'opposition au système, il y a plein de gens intelligents à rassembler et qui peuvent venir travailler. Moi, j'ai des gens de LR quand j'étais au front qui me proposaient de venir travailler pour nous et qui étaient des gens brillants sur l'immigration, qui étaient peu connus mais qui connaissaient très bien. Le problème, c'est que le Front National, c'est un parti aussi qui est dans la médiocratie, quoi. Ils préfèrent nommer des gens de niveau très moyen, regarder la liste des élections européennes, plutôt que de nommer des gens de bonne qualité et de les faire élire, comme des Messias, par exemple. Messias, je ne le partage pas son truc, mais il est quand même assez brillant. Et ben, il n'a pas été élu. Et c'est le cas de plein de gens au sein du Rassemblement National.
Donc, on va revenir sur le domaine économique. Il y a eu la semaine dernière une annonce, une mise en scène plutôt de M. Macron sur le Conseil des ministres, disant voilà, que c'était la fin de l'abondance. Alors, il y a eu nombre de commentaires sur cette fin, sur cette phrase-là. Comment toi tu la définis cette phrase? Pour toi, qu'est-ce que ça signifie cette fin de l'abondance?
Ben, ça signifie qu'ils ont fait tellement de conneries avec leurs sanctions anti-Russie, qu'on va tellement manquer d'énergie, qu'en fait on va être dans des pénuries, des rationnements. Voilà, ça veut dire juste ça, et c'est maquillé sous le nom fin de l'abondance, et c'est maquillé sous le nom écologie. Tu vois? Alors, on va avoir des pénuries, donc la France va être déclassée ainsi que toute l'Europe, moins consommée d'énergie parce qu'elle ne peut pas faire plus. Et plutôt que de reconnaître leur énorme erreur, Macron préfère, tu vois, dire n'importe quoi, fin de l'abondance, Mais Borne a bien dit, il y aura des pénuries, du rationnement, de l'énergie chère, etc. Je vous demande de couper le Wi-Fi, je vous demande de prendre moins de douches chaudes, etc. et de baisser le chauffage de 3 degrés.
Est-ce que ça, c'était quelque chose d'envisageable il y a peut-être 5 ans ?
Absolument pas. Non, jamais j'imaginais. Moi, je suis depuis 11 ans dans le combat. Jamais j'aurais imaginé que nos élites seraient allées aussi loin dans la bêtise et que les Français, d'ailleurs, réagiraient aussi peu, bien qu'on menace leur niveau de vie et qu'on les menace à tous les niveaux de la société.
Mais comment t'expliques justement parce que regarde, je vais prendre un exemple qui est très simple. Madame Borne fait un discours au MEDEF cette semaine, lundi dernier, et elle explique qu'il y aura du rationnement. Donc elle utilise le terme rationnement, ce que je n'ai pas entendu de mon vivant, très sincèrement. Elle dit ça aux entrepreneurs, elle dit ce serait vous en premier qui aurez le rationnement. Et le président du MEDEF et puis les gens qui étaient sur place, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé ça normal. Comment tu l'expliques ?
Je te l'explique de la même manière qu'il y a, tu vois, les médecins, les présidents des syndicats de médecins, tu as Marty, docteur Marty, qui est le type le plus idiot de la Terre, le médecin le plus idiot et qui est sur tous les plateaux télé et qui est mis en place. Et en fait, à la tête de tout en France, il y a les plus médiocres. Ça aurait dû être le docteur Perron ou Raoult qui serait venu nous expliquer ça. Non, ils ont pris les plus médiocres qui viennent et qui acceptent tout du pouvoir. Comme ils sont médiocres, ils dépendent complètement du pouvoir. Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se taire et de lécher, tu vois, le sol. Quoi. Voilà, c'est tout. C'est pour ça. C'est ça définition d'une médiocratie, quoi.
Oui, mais on a quand même des… Là, on est au MEDEF, on a des grands patrons, parfois du CAC 40, de grandes PME, de grandes entreprises, malgré tout. Ces gens-là, théoriquement… sont plus puissants que le Premier ministre, qui est juste une personne interchangeable.
Ouais, c'est pas tout à fait le cas, c'est pas si simple que ça, mais surtout le MEDEF, en fait, ne représente absolument pas les entreprises, comme le docteur Marty ne représente absolument pas les médecins. On a tout un problème comme ça partout. Comme dans les coopératives agricoles, les patrons de coopératives ne représentent pas l'agriculteur de base qui se fait parfois dans certaines coopératives spolier. Tu vois, tout le système est mal construit et on a des problèmes partout comme ça. Voilà pourquoi on a cette espèce de truc hallucinant sous nos yeux. Effectivement, le patron du MEDEF qui accepte ça, alors qu'il devrait dire à Macron, non mais s'il te plaît, quoi, les sanctions anti-russes qui enrichissent la Russie de 100 milliards par an, c'est les chiffres qu'on a, et qui appauvrissent la France, non. Et qui détruisent notre tissu économique, non. Eh bien non, ils acceptent tout. Parce que ces gens-là ont été mis en place, parce que justement, ils n'ont rien à dire, ce sont des communicants, et ce sont des gens qui valaient, quoi.
Mais est-ce que ça signifie qu'en fait… parce qu'on parle souvent de libéralisme, mais qu'en réalité, nous ne sommes pas dans un libéralisme, mais plutôt dans une forme de capitalisme de connivence où l'État est plus ou moins présent dans l'économie de ses entreprises.
Alors, très clairement, capitalisme de connivence, en fait, c'est le mot utilisé par les libéraux pour dire que si le libéralisme a abouti à ça, c'est-à-dire à une catastrophe dans tous les pays occidentaux, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la faute du libre marché. C'est de la faute de l'État qui est en connivence. Non, parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand tu as du libéralisme, néolibéralisme comme on a eu pendant des années avec des Thatcher, des Reagan et des gens qui ont poussé pendant 40 ans la mondialisation, le marché avant tout, la puissance des grandes entreprises contre les salariés, à la fin, tu arrives à des gens ultra puissants, des milliardaires qui achètent toutes les télés, qui achètent tous les médias, qui dominent le système et en fait, qui achètent même l'État. Parce qu'en fait, quand les énarques ils vont pantoufler dans des grandes boîtes privées où ils reçoivent des millions, en fait, ils ont été achetés à l'avance et ils ont promu une politique pour les grandes entreprises privées en connivence totale. C'est plutôt, à mon avis, eux qui ont acheté l'État plutôt que l'État qui a acheté les entreprises privées. Voilà. Voilà ce que
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de féodalité où les seigneurs qui sont des entreprises sont plus puissants que l'État.
Exactement, exactement. D'ailleurs, ils détournent l'argent public. Tu vois, ils le détournent avec des aides, alors même qu'ils suppriment des emplois en France, les Sanofi. Ils demandent des aides par centaines de millions pour le chômage partiel, mais après, ils suppriment des emplois. Ils détournent parce que la Banque Centrale Européenne, qui est instrumentalisée, c'est des anciens patrons de Goldman Sachs, par exemple Draghi qui est à la tête, et des gens comme ça, et qui ont la même idéologie de toute manière. Eh ben, ils amènent de l'argent public plutôt que pour construire des centrales nucléaires, des programmes d'électricité, etc. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils les mettent sur les marchés financiers, ils achètent des actifs, des dettes privées, des dettes publiques, ce qui fait que Bernard Arnault, par exemple, a pu emprunter à taux négatif. Il en était lui-même tout surpris, Bernard Arnault. Il a pu emprunter à taux négatif.
fais la précision, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire lorsque Bernard Arnault emprunte à taux négatif, pour les gens qui comprennent, parce que ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, parce que les gens n'empruntent pas à taux négatif.
Bien entendu, mais comme la Banque centrale a acheté tellement de choses, de dettes privées, eh bien, d'entreprises connues ou de holding, eh bien, on se retrouve avec des taux négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu empruntes 1 million d'euros, on va te donner 1 000 euros d'intérêt par an. Voilà. Voilà, ils ont réussi à emprunter, on leur donne de l'argent tous les ans, alors que bon, tu dois rembourser la dette à la fin, mais pendant tout ce temps-là, tu engranges des intérêts pour toi, pour l'emprunteur. On est dans un monde fou, surtout que Bernard Arnault, il n'a pas besoin d'être aidé, tu vois, mais on est dans un système complètement fou. De toute manière, si ça n'était pas en place, s'il n'y avait pas eu par l'achat d'argent public de la BCE, des obligations et de la dette, tous les marchés financiers s'effondrent. C'est pour ça qu'il y a ces taux négatifs, tu vois. C'est pour ça qu'il y a ces achats de la BCE.
Mais alors du coup, pourquoi est-ce que la BCE, enfin, les banques françaises, n'ont pas prêté aux particuliers à taux négatif, puisque visiblement, il fallait créer ces crédits?
Ben, disons qu'ils ont prêté aux particuliers à 1,5%. Les particuliers viennent en second financement. Ben, c'est les banques qui ont prêté à 1,5%, si tu veux. Et ça a fait monter les prix de l'immobilier, ce qui n'a aucun intérêt pour personne, puisque tout le monde doit acheter de l'immobilier un jour. Donc, si tu l'achètes pour 1 million d'euros, ton 100 mètres carrés à Paris, ben, ça va être très compliqué. Les jeunes peuvent plus se loger. Mais le problème, il est même pas là, si tu veux. Il fallait pas donner des taux négatifs à des gens comme ça. Il fallait faire en sorte que de grands projets soient financés pour créer de l'emploi et enclencher une dynamique, tu vois, de toute l'économie française. Mais on est à l'opposé de tout cela, tu vois. Je pense au grand programme nucléaire français, par exemple, le plan Messmer. En 20 ans, tu décarbones complètement l'industrie française et tu as une électricité pas chère. Ça a coûté 200 milliards d'euros. Ben voilà, tu investis 20 milliards par an pour avoir quelque chose comme ça, ça a de la gueule. Tu investis dans des marchés financiers, tu as que de l'argent papier qui traîne, aucune richesse créée, au contraire, elle est détruite.
Mais j'imagine que sur ces taux, des gens, M. Bernard Arnault, M. Pinault, se sont enrichis. J'imagine que c'est pour ça aussi que les taux négatifs ont été mis en place.
Toutes les personnes, exactement. C'est pour les enrichir, mais c'est pour éviter l'effondrement du système. Hein, parce que leur système, avec le libre-échange, avec l'industrie qui est bouffée par l'industrie chinoise, que ce soit aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, dans presque tous les pays occidentaux, c'est ça qui nous met par terre, en fait. Parce que l'industrie, c'est la clé de notre prospérité. Comme ça s'est effondré, bah, ils ont créé des paradis artificiels en faisant monter. Il n'y a pas de vraie richesse créée. Les richesses qui sont créées, c'est la hausse des prix de l'immobilier qui donne de l'argent à ceux qui en possèdent et la hausse des actions qui donne de l'argent à ceux qui en possèdent. Mais tu vois, quelqu'un, par exemple, tu vois, qui a 40 ans, 50 ans, qui a deux biens immobiliers qu'il a hérités. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ces dernières années et encore maintenant? Il peut emprunter à 1%, tu vois, et en fait, il va avoir dans 10 ans un nouveau bien immobilier. Dans 10 ans, il va réemprunter à 1%. Et avec tous les loyers, il va pouvoir avoir 4 biens immobiliers. Tu vois, il y a une espèce de spoliation des gens qui n'ont pas d'argent. Et par contre, ceux qui ont de l'argent font exploser leur patrimoine petit à petit.
Alors, est-ce que ça signifie en gros qu'on a privilégié l'économie des rentiers, c'est ça? Au détriment de l'économie et du travail?
Exactement. L'économie des rentiers contre l'économie de la production. Tu vois, exactement. C'est exactement ça. Qui était favorisé dans les 30 glorieuses. Et aujourd'hui, c'est l'économie des rentiers, des financiers qui est favorisée.
À partir de quand s'est faite cette bascule?
La bascule, elle se fait en France à partir de Giscard, tu vois, mais il y a déjà des racines avant, à partir de Giscard. Par exemple, j'ai rencontré l'ancien secrétaire d'État de Pompidou, celui qui a fait la fameuse loi Rothschild, tu vois, pour que la France, en fait, qui était d'ailleurs faite, qui faisait que la France pouvait plus emprunter facilement, l'État français pouvait plus emprunter à sa banque centrale, tu vois, alors que les banquiers privés pouvaient le faire, ce qui est absurde. Et il m'a dit concrètement, oui, on a trop favorisé l'économie productive, on veut favoriser les rentiers qu'on a trop défavorisés. Tu comprends? On veut favoriser les rentiers et les importateurs. Je n'ai jamais compris comment on pouvait penser quelque chose pareil. Mais derrière tout cela, il y avait le fait que le système financier de la France, qui était extrêmement efficace, qui allait vers le système productif, on devait faire un système un peu casino comme aux États-Unis et rejoindre les autres pays pour aller dans l'euro. Que la France se calque sur l'Allemagne et tous les autres pays européens pour rentrer dans l'euro. Il y a des documents qui montrent que tout cela, des rapports qui montrent que c'était le but, en fait, de tout cela.
Est-ce que le but aussi était de faire rentrer justement la France dans la mondialisation?
Exactement. Il y a eu cette financiarisation et la mondialisation qui s'est faite au même moment.
Oui, parce que la financiarisation ne peut être que mondiale.
Oui, wow, tu peux faire une financiarisation par pays, quoi. Mais là, elle est beaucoup plus puissante parce qu'elle est démultipliée, elle est mondiale. D'ailleurs, plus personne ne maîtrise rien, puisque quand tu te dis que la financiarisation va concerner la France, mais les actifs français, ils partent au Caïman, ils partent au Luxembourg, ils partent à Chypre, hein, dans l'Union européenne, pour avoir moins d'impôts. Donc, tu ne maîtrises plus rien, quoi. Voilà. Mais financiarisation et mondialisation, c'est vraiment l'aboutissement de l'hypercapitalisme.
Est-ce que on peut dire que ou pas que les populations, enfin la population nationale, y a peut-être gagné ou perdu sur cette mondialisation. Déjà, qui a gagné, qui a perdu sur cette mondialisation?
Bah, tu sais, ce qui est très simple, c'est que la mondialisation, tu as fait travailler des salariés très pauvres dans des pays comme la Chine, comme le Vietnam, pour vendre aux chômeurs à crédit en France. Voilà, pour simplifier. En fait, ceux qui ont gagné, en Occident, ce sont les très riches. Tout le reste, c'est très clair, tu vois, les salaires n'arrivent plus à augmenter. Et en plus, il y a le chômage à partir des années 80 avec la mondialisation et la financiarisation, pendant que les fortunes explosent. Les 500 plus grandes fortunes françaises sont passées, ont multiplié par 15 leur patrimoine entre 1995 et aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ont 1000 milliards d'euros de patrimoine. Ça n'a aucun sens. 15 fois.
Tu sais, je vais donner un exemple parce que, moi, il se trouve que je viens de l'Ouest parisien. Enfin, quand j'habitais chez mes parents, j'étais au lycée La Fontaine, à la Porte d'Auteuil. Voilà. Ouais. La génération de mes parents habite l'Ouest parisien, mais je n'ai aucun ami avec qui j'ai fait l'école. Ah, si, sauf un. Mais aujourd'hui, il est premier maire adjoint du 16e qui habite cet arrondissement. Ben, c'est dingue quand même, c'est-à-dire que, moi je suis né en 81, c'est-à-dire qu'à partir de notre génération jusqu'aux générations futures, en fait, on a tous perdu, quoi, et aucun de nous n'a les moyens d'habiter dans l'Ouest parisien aujourd'hui.
C'est vrai, tu as raison, en fait, j'ai pas raisonné en classe d'âge, mais quand tu raisonnes en classe d'âge, les jeunes se sont fait avoir et se font de plus en plus avoir. Parce qu'en fait, pour un jeune, ben, les appartements parisiens qui valent 14 000 euros le mètre carré, donc 50 mètres carrés, ça fait combien? Ça fait 700 000 euros. C'est inabordable. Ils ne peuvent pas se payer d'appartement à Paris. C'est terminé. Et en fait, toute cette financiarisation qui a fait monter les prix de l'immobilier, ça a été vraiment… on savait que ça allait monter, ça a fait monter. Eh bien, c'est une catastrophe. Tu as un autre effet aussi, c'est-à-dire l'incapacité de réguler. Parce qu'à Paris, ce qui fait monter les prix, c'est les taux bas et la finance, mais c'est aussi le fait que des étrangers et des riches bourgeois de province achètent de plus en plus de biens qu'ils n'occupent pas. Tu vois, dans les beaux quartiers parisiens, on est à 25% de biens achetés, donc retirés du marché, en fait, où plus personne n'habite, ce sont des Italiens très riches, des Américains qui viennent quand ils en ont envie. Tu vois, alors qu'il faudrait réguler ça, c'est pas compliqué, hein. Tu leur fais payer 4 fois plus d'impôts, tu vois, de taxes d'habitation et taxes foncières que les autres. Et tu fais baisser la taxe foncière des autres et la taxe d'habitation. Et là, tu t'y retrouves. Mais on a laissé faire ça et on a laissé se polier. Pour le bien-être et le confort des riches d'avoir un appart à Paris, en fait, tous les Parisiens et les jeunes qui ne peuvent plus y habiter. Ça, c'est un autre effet important.
Mais regarde, on s'est dit, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble, on parle de la situation française qui est de moins en moins bonne, et on a un président de la République qui nous dit que c'est la fin de l'abondance. C'est quand même un foutage de gueule.
Ah, ils reconnaissent qu'ils sont dans l'erreur totale, leur modèle a failli.
Les gens, oui, mais nous, on n'a jamais eu l'abondance.
En plus, il n'y a jamais eu l'abondance réelle. Mais de toute façon, c'est un mot complètement. Il se fout du monde, puisque les gilets jaunes ont dit on est en train de crever de faim, et lui, il dit abondance. Mais c'est juste un mot pour dire c'est plus l'abondance, ça va être les pénuries, quoi, en fait. Ça va être une baisse massive de votre niveau de vie. C'est ça qu'il dit, en fait, tout à fait. Mais ça dit que son modèle économique est une catastrophe, mais qu'ils vont continuer à aller dans le mur. Ils vont continuer à nous emmener dans le mur jusqu'à ce qu'on les renverse.
Est-ce que l'abondance, c'est aussi la fin de l'argent de la BCE?
Peut-être, mais peut-être pas non plus. Pour le moment, oui. Mais il faut voir que la BCE, elle tiendra l'euro coûte que coûte, quoi. Puisque tout le monde a misé sa chemise sur l'euro, tous les politiciens européistes, donc ils tiendront absolument coûte que coûte. Et tu vois, c'est là où c'est marrant, ils rejoignent les écologistes qui finalement sont d'accord. Ah ouais, super, c'est la fin de la société de l'abondance, donc des croissances, donc on est content. Tu as entendu, ils n'ont rien dit, les écologistes, face à ces problèmes. Même si on ouvre des centrales au charbon, même si tout ça est absurde, on va dans la décroissance et c'est ça qu'ils veulent, quoi. Tu vois, donc ils sont les idiots utiles de Macron et du système.
Tu as parlé juste avant de révolte. Est-ce que tu penses que on peut être sur une époque un peu séditieuse?
Ben, il va falloir, hein, parce que de toute manière, si vous voulez, si les gens restent chez eux, ils veulent s'en tirer tout seuls, ils vont avoir des baisses massives de leur niveau de vie, des problèmes de criminalité, tu as vu, et de voisinage qui explosent pour de plus en plus de gens, l'école qui ne fonctionne plus, l'hôpital public, tout est à l'eau, quoi, les services publics ne marchent plus, donc une vie de plus en plus difficile. Donc soit les gens se battent politiquement et arrivent à faire quelque chose, en tout cas comprennent, et on va pouvoir sortir ces gens et retrouver un avenir intéressant et un bel avenir pour la France, soit ça va être le cauchemar pour tout le monde, parce que quand tout le monde souffre, tout le monde est mal à l'aise, tout le monde est déprimé, même les gens qui sont dans le déni sont déprimés, donc ça va mal se passer. Après, il y a le fait qu'il faille, il y a deux choses. Ça, c'est l'aspect système, et il faudra recréer du collectif, il faut faire du politique. Mais il faut aussi rester vivant. Il faut se sauver, il faut sauver sa peau, parce que, si tu veux, il faut réussir à survivre dans cette période-là. Et ça, c'est fondamental. Donc, peut-être aller à la campagne plutôt que de rester dans des grandes villes polluées, criminogènes, où les gens sont de plus en plus nerveux et difficiles à vivre. Avoir son jardin aussi, c'est pas une idiotie. Pouvoir avoir du bois facilement pour se chauffer. Voilà, tu vois, on en est là, quoi. C'est une certitude que là, tu es plus en sécurité, alors que notre société, on a perdu la sécurité. On a perdu la sécurité de l'emploi, on a perdu la sécurité énergétique aujourd'hui, on est en train de perdre toute notre sécurité.
C'est-à-dire que quand tu dis il faut avoir un jardin, c'est-à-dire faut planter des choux, hein, si je puis dire, et peut-être passer vers une société de troc.
Pourquoi pas? En tout cas, pendant que le système s'effondre, il faut tenir. Donc il faut tenir, effectivement, et pourquoi pas faire du lien avec des gens, s'aider. Moi, j'ai des œufs de poule et j'ai des légumes. Ok, je vais t'aider. Et toi, tu vas m'aider à réparer ma maison. Tu vois, tu fais un. C'est un côté économique très intéressant et ça te permet de survivre. Et en plus, c'est un côté de faire du lien et de faire des choses positives dans une petite communauté quand la grande communauté est en train de s'effondrer.
Mais c'est-à-dire que. Est-ce que le système peut vraiment s'effondrer, sachant que continuellement, on peut produire de l'argent et donc continuer à payer des gens avec de l'argent qui ne repose sur rien?
Alors, on peut le faire, effectivement, mais de toute manière, là, tu vois, on est dans le mur. On manque d'énergie, on manque d'énergie. Tu n'as pas l'énergie, tu ne peux pas l'acheter, quoi, tu vois. Elle n'est même pas disponible, de toute manière. Le gaz qui nous manque, il n'est pas disponible. Donc là, on atteint la limite. Après, c'est vrai qu'ils peuvent distribuer de l'argent, c'est ce qu'ils font sans arrêt, mais au bout d'un moment, tu as tellement de dettes, la France a tellement de dettes, que là, elle s'effondre d'un coup, elle se libanise, et c'est la catastrophe.
Oui, mais est-ce qu'on a, on a dépassé le seuil de la dette qui fait que ce sera la catastrophe?
Non, mais on va le faire si ça continue, mais on peut toujours régler. La France n'a pas fait faillite en 200 ans. Après, elle était dirigée par des gens corrects, elle n'était pas dirigée par des crétins comme Macron et Le Maire, qui te disent qu'ils vont mettre l'économie à genoux russe, et finalement, c'est la française qui le met à genoux. Là, on a un vrai risque. Si on laisse ces gens au pouvoir, oui, à un moment donné, il y aura un problème majeur sur la dette publique française et sur l'économie française, c'est clair.
C'est-à-dire que la dette publique française peut être attaquée, par exemple, par des gens en bourse, par des spéculateurs?
Oui, ou des investisseurs qui ne veulent plus l'acheter, ce qui revient au même, et qui fait que les taux d'intérêt montent de façon importante, tu vois.
Mais avant de
faire des erreurs.
Est-ce qu'on connaît le timing? Est-ce que, par exemple, ça peut se passer sur un court terme ou peut-être plus loin, peut-être après 2027?
Franchement, c'est très difficile à dire. Quand tu es dans des phénomènes chaotiques comme ça, personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait. Ce qui est clair, c'est que notre industrie se détruit. Tu vois, on va sur du tourisme et des petits boulots ubérisés. Et ça, c'est une économie du tiers-monde. Une économie, tu n'as plus de tourisme, du tourisme et des petits boulots qui nourrissent le pays, c'est du tiers-monde. Et ils vont détruire notre industrie avec l'énergie, je ne sais pas si on en parlera. Et deuxièmement,
évidemment, on va parler parce qu'on est là pour être ensemble longtemps.
Et tu vois, ça crée un déficit commercial puisqu'on n'a plus d'industrie. Mais ça va être le cas aussi de l'Allemagne et de tous les pays européens. Les États-Unis, ils ont 1 000 milliards de dollars et ils sont partis sur du 1 000 milliards de dollars de déficit commercial. Et ça, c'est de l'argent que tu dois emprunter à l'étranger. Jusqu'au moment où tes prêteurs à l'étranger disent non, c'est pas possible. Et là, ils te serrent le kiki. Et là, tu es mal de chez mal et tu es dans une vraie descente aux enfers, quoi.
Oui, mais est-ce que les, justement, est-ce que ces traders étrangers peuvent dire à la France, non, c'est terminé, nous ne vous prêterons plus rien?
Ben oui, le front en prêtant pas. Et dans ce cas-là, tu verras les taux d'intérêt s'envoler, quoi. Et la France avoir du mal à s'endetter. Dans ce cas-là, ça se passera comme ça.
Alors, chez les jeunes avec Florian Philippot qui sont présents et qui posent cette question, votre avis sur les crypto-monnaies? Je sais que adore ça, les jeunes avec Florian Philippot. Alors, Florian Philippot, je ne sais pas s'il aime bien ça. Mais en tout cas, ces jeunes adorent les crypto-monnaies.
Alors, mon avis, moi, je l'ai dit, j'avais fait une émission avec Élise Blaise où moi, je disais attention aux crypto-monnaies, au Bitcoin, etc. Ça va s'effondrer à un moment donné et ce n'est pas un outil pour les particuliers. Vous allez vous faire plumer par les spéculateurs professionnels. Et j'avais Philippe Erlin qui me disait le contraire. Personnellement, j'en avais un petit peu de Bitcoin, je m'étais amusé avec. Je les ai revendus avec profit il y a 6 mois quand j'ai senti que ça puait parce que tous les marchés financiers puaient. Et forcément, les gens qui sont là-dedans, ils vont se prendre… ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Donc, les taux d'intérêt montent, les crypto-monnaies vont baisser, le Bitcoin peut très bien revenir à 10 000. Après, s'il y a un nouveau cycle qui se passe, on rentre dans autre chose. Mais si tu veux, ça vaut pas grand-chose, ça vaut rien intrinsèquement, c'est que de la spéculation. Donc, les jeunes et les investisseurs particuliers vont se faire plumer. Et ça sert surtout d'outil de blanchiment à des gens. Des fois, les gens montent une crypto-monnaie, partent avec la caisse et tous les gens se font plumer qu'il y avait cette crypto-monnaie où ils ont mal calibré leur système et tout s'effondre. Donc, moi, je dis, il y a eu beaucoup d'effondrements de crypto-monnaie. Je dis attention, n'y touchez pas.
Alors, comme
prenez de l'or, si vous voulez vous amuser, si vous voulez faire un truc intéressant qui vous prémunit contre des problèmes, prenez de l'or. Si vous voulez prendre un truc qui peut être spéculatif et intéressant, pour acheter des producteurs d'uranium, puisque tout le monde va passer au nucléaire en masse. Mais n'allez pas sur ces trucs qui ne sont pas productifs et très dangereux.
Alors, on a eu la semaine dernière, là, on va vraiment parler d'énergie, parce que c'est aussi ça qui importe, parce que l'énergie, bon, bah, c'est comme disait M. Charles Gave, l'économie, c'est de l'énergie transformée.
Ouais, très bien.
On a eu une annonce d'EDF qui expliquait que le mégawattheure allait valoir entre 1 000 et 1 500 euros en 2023, qu'il vaut déjà 800 euros, alors qu'il valait 85 euros il y a un an et 40 euros il y a 2 ans. Quelles seront les conséquences que cela va engendrer pour les entreprises et pour les particuliers, évidemment?
Ah bah pour les ménages, si il y a une… Alors, moi, je pense que ça ne sera pas ce prix-là, quoi. Hein. Je veux dire, ça, c'est des prix sur des marchés de gros, d'échanges, etc.
Alors, oui. Alors, justement, explique-nous ça parce que les gens ne l'ont pas compris. Moi-même, je ne l'ai pas compris. Quand EDF fait cette annonce, on a l'impression qu'en fait, l'électricité dans son ensemble va valoir entre 1 000 et 1 500 euros le mégawattheure.
Non, c'est en fait les prix des futurs. Donc, le prix de l'électricité dans un an, les traders parient qu'elle vaudra 1 000 euros le mégawattheure. C'est ça qui était dit par les marchés, et c'est ça que EDF a dit sans doute. Mais ça, c'est purement spéculatif, c'est fait sur des tout petits échanges. Même le marché, au jour le jour, tu vois, de l'électricité européen, ça vaut autour de 500 euros le mégawattheure en ce moment. C'est-à-dire 50 centimes, 3 fois le prix que paye le particulier pour avoir son électricité. Ce sont sur des petits volumes d'échanges, notamment quand les Français vont acheter de l'énergie en Espagne ou en Italie. Ça concerne des petits volumes d'échanges et l'essentiel de l'électricité, pour le moment, les tarifs restent relativement contenus pour les ménages, en tout cas. Voilà, pour les ménages, ça reste contenu. Pour les entreprises, on a des vrais problèmes qui sont en train d'apparaître. On a les tarifs d'électricité, par exemple, de Fonderie de Chaumont qui dit « Je suis passé de 750 000 à 1,5 million et on promet 6 millions pour l'année prochaine. » Si c'est ça, en gros, ils vont fermer, ils vont faire faillite. C'est pareil pour Duralex, Ascometal, Arc. Entre les prix de l'électricité et du gaz, ils sont obligés de fermer temporairement les usines, temporairement ou peut-être définitivement, parce qu'ils perdent un argent de dingue avec ces prix de l'énergie. Ils ne peuvent pas produire. Et il y a des bars qui disent on a des prix d'électricité, on nous demande des factures x2, x3 et on ne s'en sort pas. Ça, c'est quand vous n'êtes pas chez EDF notamment. Quand tu n'es pas chez EDF et tu as voulu économiser 5% en allant chez un fournisseur alternatif, ouais, là, tu as des hausses, il y en a qui abusent du truc et qui font des hausses de prix énormes, alors que ces gens-là ne produisent pas d'électricité. ils l'achètent à bas coût à EDF pour la revendre derrière. Et s'ils ont, et normalement, ils sont très bien alimentés en électricité. Donc, on a un vrai problème.
Mais comment ça se fait que ces entreprises-là, parce qu'on a voulu libéraliser le marché de l'énergie en France, enfin, en tout cas en Europe,
oui.
Comment ça se fait que ces gens-là achètent de l'énergie à EDF et revendent plus cher? Enfin, ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas.
Alors, c'est l'Union européenne qui a imposé à EDF de vendre 20% de son électricité 13 ans en dessous de son prix de revient. Donc, à chaque fois qu'EDF vend son électricité à ces gens, elle perd de l'argent. Donc, elle lui a demandé de subventionner ses concurrents, d'accord, qui sont des opérateurs alternatifs qui produisent rien, quasiment aucun n'a des unités de production. Et donc, ils achètent l'électricité en faisant perdre de l'argent à EDF, ils piquent des clients à EDF et derrière, ils le revendent à des particuliers. Mais ils n'ont même pas d'infrastructure de distribution, ils n'ont rien. Tu vois, c'est juste des calculettes et des commerciaux.
Mais c'est une dinguerie, ça.
C'est une dinguerie européenne qui a forcé ça pour essayer de casser EDF et puis pour essayer de faire de la concurrence là où tu ne peux pas faire de concurrence. Sur l'électricité, c'est extrêmement dur. Et encore, on avait un EDF qui marchait bien, une électricité pas chère, qu'on avait tout le temps, qui était stable. Tout le monde en était content et ils nous ont détruit ça en faisant ce marché de l'électricité. Et ces gens-là, en plus, quand il y a un problème, ils partent. C'est-à-dire que les clients entreprises, ils leur disent « Non, on ne veut plus de vous parce que l'électricité est trop chère. » Ils ne veulent plus assurer le service quand les prix, entre parenthèses, ont monté. Mais par contre, ils demandent de l'électricité pas chère à EDF. Il y a sans doute des arnaques où parfois, ils achètent à EDF et ils revendent sur les marchés 10 fois plus cher.
Tu as dit qu'en gros, que tu as des gens qui sont clients dans cette entreprise et lorsque l'électricité est trop chère, ces entreprises leur disent « Non, monsieur, vous n'êtes… On vous fournit plus d'électricité. »
Ouais, on veut plus, quoi. Voilà, ils n'assument pas. Ils n'assument pas et donc, les gens retournent chez EDF, les clients vont taper à la porte d'EDF.
Et pourtant, les clients ont des contrats avec ces entreprises, non?
Oui, mais bon, elles ne respectent apparemment pas toujours les contrats ou au moment des renouvellements, elles disent « Le prix, maintenant, c'est 3 fois plus cher qu'avant. » Donc, oui, ils font exploser le prix ou 10 fois plus cher pour certains. Donc, les clients, ils partent, quoi, aussi, tu vois. Et on se demande, on se pose la question s'ils arnaquent pas les gens. C'est-à-dire que, tu vois, tu achètes de l'électricité pas cher à EDF, pas cher du tout, à 4 centimes le kilowattheure. Tu la revends sur le marché à 60 centimes le kilowattheure. Et pour ça, tu dis, tu fais partir tes clients. Et tes clients partant, tu as de l'électricité disponible que tu peux tirer sur EDF et tu le vends en faisant x15. Il y a sans doute des arnaques comme ça qui sont faites et on est dans le grand n'importe quoi, puisque ce sont des coquilles vides. Et ça, c'est l'Union européenne qui est coupable et c'est tous les politiques européistes français qui ont accepté ce truc qui est une bêtise absolue.
Mais ça veut dire qu'en gros, l'Union européenne a créé la spéculation financière sur l'électricité et le gaz.
Exactement, exactement. Ce qui est un accélérateur de la crise de l'énergie qu'on a aujourd'hui. Mais elle a créé cet accélérateur, mais elle a créé pire. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est une machine à déresponsabiliser. Tu vois, elle a imposé... Pas de nucléaire, elle veut pas de nucléaire, l'Union européenne, elle fait tout pour que nous embêter avec notre nucléaire, et elle veut des énergies renouvelables. Donc l'Allemagne, elle a fait plein d'énergies renouvelables et elle a fermé ses centrales nucléaires. Elle s'est dit, quand ça produit pas en hiver, il n'y a pas de vent et pas de soleil parce qu'on est l'hiver, dans ce cas-là, on va aller tirer de l'électricité sur la Pologne, qui fait du charbon, ou de l'électricité sur la France, qui fait du nucléaire. Et plein de pays comme ça se sont mis à dire, on fait des renouvelables et on tirera sur les autres l'électricité qui nous manque. Sauf que quand tout le monde a fait ça, le système devient hyper fragile. RTE a prévenu d'ailleurs à un moment donné qu'on risquait des blackouts, le système était trop fragile. Et là, tu vois, le système est en train de tomber parce qu'il manque un peu de gaz russe. Et tout le château idiot de la Commission européenne est en train de s'effondrer. Et pour nous, ça nous coûte des prix très chers.
Est-ce que ça veut dire qu'en fait, le renouvelable, c'est bidon, quoi. C'est juste une pensée de ces verts et qu'en fait, ça ne marche pas?
En fait, c'est pas que ça marche pas. Si tu veux, le renouvelable, il est au prix équivalent au nucléaire aujourd'hui. Il est pas cher. Le seul problème, moi, je l'annonçais dès 2014 et je comprends pas. Moi, je disais, ça sert à rien à part faire de l'hydrogène. Pourquoi? Si tu veux faire de l'électricité pour la consommation d'électricité avec les renouvelables, eh bien, tu vas être obligé de fermer du nucléaire. Et pendant ce temps-là, la moitié du temps, tu produis quand il y a du vent ou du soleil de l'électricité. L'autre moitié, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes des centrales à gaz ou au charbon. Donc, les renouvelables, c'est l'assurance que la moitié L'autre moitié du temps, tu consommes de l'énergie fossile, gaz ou charbon. Donc, ça te rend dépendant au gaz et charbon et ça t'oblige à émettre beaucoup plus de CO2 qu'avec des centrales nucléaires. Tu vois, et en plus, ça te rend ton réseau instable. C'est d'une connerie absolue. Moi, je l'avais vu dès 2014, dès mon premier bouquin, et je disais, n'utilisez pas les renouvelables pour faire ça. Faites de l'électricité pour électrolyser l'eau et faire de l'hydrogène avec ça. Là, ça a du sens. Sur le reste, ça n'a aucun sens.
Alors, j'ai une question de bigouden à vélo, d'ailleurs. Comment on fait du vélo avec une bigouden comme ça? Tiens, répondez-moi, chère madame, hein, j'imagine. Bonjour, que pensez-vous du compteur Linky?
Bon, ben, Linky, évidemment, il y a un problème de... Il y a un problème sur les données, puisque vos données de consommation sont transmises. Et là-dessus, l'État et tous les gens qui ont participé à ça n'ont pas été propres. Quoi. Ils auraient pas dû, ça devrait rester confidentiel. Et il y a un vrai problème. Par exemple, je vais vous dire, il y a un vrai danger là-dessus, parce qu'on n'imaginait pas qu'ils étaient aussi vicieux. Mais là, il y a des gens qui ont des thermostats connectés aux États-Unis. Et en fait, lors d'une crise d'électricité, ils ont baissé la température de tous les gens. Tu vois. Ils ont baissé le niveau d'électricité à partir des thermostats connectés. Donc attention que Linky, ça ne devienne pas un instrument de l'État pour piloter directement votre installation électrique chez vous. Tu vois.
C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire techniquement. Ils peuvent nous baisser l'électricité, nous baisser de 2 degrés. Comme ça, on dira,
prends ouais, ça. Baisser l'électricité, ouais, hein, baisser la consommation, votre consommation électrique de façon forcée. Oui, ça doit être possible avec Linky, tout à fait.
Mais est-ce que, du coup, lorsque Madame von der Leyen dit, voilà, il faut baisser d'un degré, de deux degrés, est-ce que, en effet, ça sert à quelque chose ou c'est encore une connerie sans nom?
De toute manière, tu vois, pour reprendre le problème au début, l'Europe, en fait, a déclaré des sanctions contre la Russie. On veut plus de pétrole russe, plus de charbon russe, plus de gaz russe. Moi, ça me paraissait une folie de dire ça parce que c'est un tiers de notre énergie. Et donc, ça allait être un problème. Mais ils l'ont fait, ces idiots l'ont fait. Or, donc, ils ont arrêté le pétrole, ils ont arrêté le charbon, qui a explosé en prix. Et puis, Poutine leur a dit, bah, puisque vous voulez faire un embargo sur le gaz, moi, je le fais le premier. Donc, on se retrouve avec de moins en moins de gaz russe. Le filet est très petit de la Russie vers l'Europe. Et alors, le problème qu'on a, c'est que l'Europe dépense... Le gaz, c'est ingérable, parce que le pétrole, le charbon, tu peux le déplacer, tu as des bateaux, c'est assez simple de le déplacer. Encore que pour des montants énormes, ce n'est pas simple, mais on y arrive. Pour le gaz, c'est impossible parce qu'il faut des pipelines. Si tu n'achètes plus en Russie, il faut construire un pipeline vers un autre pays, vers l'Algérie, vers le Qatar. Ça va prendre des années ou alors des bateaux, des usines de liquéfaction. Donc, pour le gaz, on est très mal. Or, le gaz, c'est 20% de l'électricité européenne, c'est du gaz. Donc, 40% vient de Russie. 25% de l'énergie européenne, c'est du gaz. Donc, 40% vient de Russie. Donc, tu vois qu'il va nous manquer 8% d'énergie et d'électricité en général. Donc, on est mal, on va avoir des problèmes, il va manquer d'électricité dans l'ensemble de l'Europe à cause de leurs folles sanctions contre la Russie. Ils ont réussi à faire des sanctions anti-russes qui sont en fait des sanctions anti-françaises. Voilà le niveau de médiocrité de nos élites.
Oui, mais certains nous disent, justement, que certains, parce que moi, j'écoute aussi les gens qui sont pro-ukrainiens, et certains nous disent, oui, mais... si la Russie ne fournit plus de gaz à l'Europe, eh ben, ça va faire tomber l'industrie allemande. Est-ce que ça, c'est une réalité, d'après toi?
Oui, c'est une réalité, parce que l'industrie allemande consomme énormément d'énergie. Et c'est en train
Donc, c'est une bonne chose pour nous, alors.
Et de gaz, oui, mais ça va nous faire tomber, nous aussi. Et quand l'industrie allemande tombe, elle commande à l'industrie française qui tombe. Tu vas avoir un jeu de dominos complet dans l'Europe, puisque l'industrie allemande est la plus grosse d'Europe. Mais tu vois, en plus de ça... En fait, on a dit qu'on le faisait au nom de l'Ukraine, mais on a enrichi et noyé la Russie sous le cash qui fait 100 milliards d'euros de cash de plus sur les énergies fossiles. Et pendant ce temps, on appauvrit la France et toute l'Europe. Donc, on est vraiment chez les dingues.
Alors, du coup, attends, je comprends pas. Si l'industrie allemande tombe, pourquoi nous tomberions avec eux?
Bah, premièrement, parce que les Français, il y a plein, ils achètent beaucoup aussi à la France, des éléments de sous-traitance et tout. Si là, ça, c'est donc à notre industrie. Le deuxième chose, c'est que ça va faire une énorme récession en Allemagne et donc ça va finir par peser sur la France. Ils vont moins acheter de vin, de produits agricoles, de produits de luxe, de voitures françaises, de tout ce qu'on produit. Mais de toute manière, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas que l'industrie allemande qui va tomber. Il y a l'industrie française qui va tomber aussi. Quoi. Et toute l'industrie européenne qui risque d'être totalement détruite dans cette affaire.
Parce que l'industrie française, elle aussi... est tributaire du gaz russe parce que nos élites, enfin nos pseudo-élites nous disent à la télé, non mais ne vous inquiétez pas, moi Bruno Le Maire, sachez que nous ne sommes pas du tout dépendants du gaz russe, vous inquiétez pas. Donc ils nous mentent, ce gars-là nous ment en fait.
Alors c'est vrai que l'Allemagne c'est 55% de gaz russe, ils sont donc complètement irresponsables parce qu'ils dépendent de la Russie, ils sont très très mal. La France c'est 15% de gaz russe, ouais, ça c'est clair, mais c'est 15% qui vont nous manquer. Puis n'oublie pas qu'on n'a plus de nucléaire en ce moment. Il y a un problème de nucléaire dont on parlera peut-être. Donc ça rajoute. On aurait eu besoin de gaz pour compenser. Le problème, c'est que le nucléaire est en panne grâce à leur nullité aussi. Et puis Macron a promis à l'Allemagne du gaz russe. Tu vois ? A promis de donner du gaz, pardon, pas du gaz russe, du gaz qui vient français, qui vient d'ailleurs, pour l'Allemagne, pour les aider. D'ailleurs, en échange de l'Allemagne nous aiderait peut-être un peu pour l'électricité. Donc, tu vois, ça va aussi être un problème en France.
Là, c'est une folie. C'est-à-dire que nous allons donner notre propre gaz. Voilà. Les Allemands vont nous donner l'électricité, alors que nous avons des centrales nucléaires que les Allemands n'ont pas. Voilà. On est chez les fous, en fait.
On est chez les fous. On est chez les fous. Et surtout, les Allemands nous donneront l'électricité quand ils veulent, quoi, hein, tu vois. Alors que nous, c'est sûr qu'on donnera le gaz. Est-ce qu'ils nous donneront l'électricité au bon moment ou au moment où on n'en a pas besoin? Parce que c'est tout le problème de l'électricité. Non, on est vraiment chez les fous. Et le problème en France, donc en Allemagne, c'est le gaz et un peu l'électricité. En France, le problème, c'est vraiment l'électricité. Et le prix du gaz aussi, puisqu'il y a un marché européen du gaz qui a fait exploser le prix avec des opérateurs privés qui font n'importe quoi, qui font augmenter les factures pour les entreprises. Donc ça aussi. Mais c'est vraiment l'électricité en France, le problème.
Mais attends, mais ça veut dire que nous, en France, alors qu'on a des centrales nucléaires qui viennent de sous le général de Gaulle, on a eu un avantage compétitif sur le monde entier grâce au nucléaire, nous allons devoir importer de l'électricité allemande.
Exactement. Avant, on exportait 10% de notre production d'électricité. Et tu vois, c'était vachement bien parce que c'était un matelas. Si on n'avait pas les moyens de l'exporter parce qu'on avait besoin pour la France, on le gardait, sinon on l'exportait. C'était formidable. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Macron et compagnie, mais ça vient de Hollande déjà, ils ont détruit, en fait, si tu veux, le EDF avec ce problème de vendre à des concurrents à prix en dessous de tes prix de revient. Donc, où tu perds de l'argent à chaque fois et en plus, tu perds des clients. Aucune entreprise ne peut survivre comme ça. Donc, ils perdent de l'argent. En plus, on a dit à EDF, bon, Fessenheim, il faut le fermer, là, vos deux centrales nucléaires. Elles rapportaient aujourd'hui. Avec les tarifs européens d'électricité, si on exportait l'électricité de Fessenheim, on avait Fessenheim ouvert, ça rapporterait 8 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires et 7 milliards d'euros de résultats nets. Tu t'imagines? Le coût Macron, avec sa nullité, nous coûte un pognon de dingue. Il a fermé EDF, Fessenheim, 8 milliards d'euros par an de coût pour les Français. Et d'ailleurs, il pourrait le rouvrir depuis 6 mois, mais il n'a rien fait. Enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, Fessenheim s'est fermé. On dit au PDG d'EDF qu'il va falloir fermer 12 centrales de plus. C'est Macron qui l'a inscrit dans la loi. Et ça n'a toujours pas été enlevé, hein, il faut le comprendre. Eh bien forcément, c'est l'attrition et le désinvestissement dans le nucléaire. Ils ne vont pas embaucher des… C'est ce qu'a dit le patron d'EDF devant la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui était hyper mal au MEDEF en disant « on ne va pas embaucher des ingénieurs quand on demande de fermer le nucléaire, 25% de nos capacités ». Tu vois, donc ça a posé des problèmes majeurs à EDF. Et en plus de ça, il y a eu des problèmes de recrutement parce que l'image est très mauvaise. On dit aux jeunes, on va fermer le nucléaire. Eh ben, les jeunes ne vont pas là-dedans. Les jeunes de Centrale Paris, de Polytechnique, les jeunes ingénieurs brillants n'y vont pas. Donc, ils ont des problèmes pour recruter. Tout ça, ça a fait EDF, pas d'argent, sous pression pour garder des clients, problème de recrutement. Ça marche plus, quoi, tu vois. Ça marche plus et on a la moitié des centrales à l'arrêt. Il faut que je te donne une perle que j'ai trouvée.
Ah, vas-y.
Vargon a dit, en fait, fermer Fessenheim, c'était un engagement vers l'amitié franco-allemande. Donc, en fait, le gouvernement a fermé Fessenheim, qui nous coûte 8 milliards d'euros par an d'avoir Fessenheim fermé, pour faire plaisir aux Allemands. Donc, en fait, ces gens-là, ils ne bossent pas pour les Français, ils bossent pour les Allemands. Mais ça, je le sais depuis longtemps, moi, personnellement.
Ben, c'est un peu comme le traité qu'on a eu avec les Allemands. Alors évidemment, j'ai oublié le nom du traité. Voilà, Aix-la-Chapelle. Voilà. J'ai appris aussi que nous avions beaucoup en Alsace-Moselle, du lithium. Et avec ce traité d'Aix-la-Chapelle, nous devons partager le lithium français à moitié avec les Allemands.
Mais on est fou, on fait ça depuis 20 ans, si tu veux, nos élites. Elles sont couchées devant les Allemands, elles sont ridicules, elles ont une admiration sans borne pour les Allemands. Ils ne sont pas du tout si bons que ça, tu vois, ils sont capables de prendre 55% de gaz russe et se prendre une tôle énorme. Pareil, Jospin avait donné, alors que la France avait soutenu pendant 30 ans Airbus, a été le premier acteur d'Airbus, Jospin avait donné 15%, avait dit « Ah bon, on va être égalité avec les Allemands », alors qu'on était devant les Allemands en pourcentage, tu vois, du capital, ce qui était parfaitement normal. Et quand la boîte marche bien, ils enfilent 15% aux Allemands. Des fous. Pareil, Ariane, les ingénieurs français ont mis pendant des années, l'État français a mis beaucoup d'argent pour arriver à faire les moteurs des fusées Ariane. Et bien là, Macron, il a filé les moteurs des fusées Ariane, il les a transférés de Vernon, où il y avait 600 emplois pour ça, en Allemagne. Tu vois, donc on a des gens qui sont des traîtres à la France, ils ont honte de la France et ils nous trahissent sans arrêt, quoi.
Mais comment t'expliques sa fascination envers l'Allemagne? Pourtant, ils ont perdu toutes les guerres contre nous, quoi. Donc comment tu l'expliques?
Ouais, c'est un peu compliqué. Effectivement, ils ont perdu les guerres. La Première Guerre mondiale, vraiment la France. La deuxième, bon, c'est la résistance, le général de Gaulle et les États-Unis. Mais les élites franco-allemandes sont fascinées, enfin, certaines bourgeoisies françaises sont fascinées par l'Allemagne. Ils sont ridicules, ils sont à genoux. Je ne peux pas t'expliquer exactement pourquoi, mais c'est carrément énervant, quoi. C'est très, très énervant.
Ben, c'est de la haute trahison. Théoriquement, en temps de guerre, ces gens-là, c'est le bûcher, quoi.
Ah ben, c'est de la haute trahison, c'est très clair, c'est très clair. Et en plus, ils ne le disent pas, si tu veux. Là, il a fallu trouver l'endroit où Wargon l'avait dit, hein. On peut le trouver sur Internet, sur des médias officiels. Fermé Fessenheim, c'est l'amitié franco-allemande. Ils ne vont pas le claironner dans les médias, mais ils le font par derrière.
C'est des salopards. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est quand même grave, c'est que nous avons nombre de centrales nucléaires à l'arrêt, qui ne fonctionnent pas. Pourquoi sont-elles à l'arrêt, ces centrales nucléaires? Qui a décidé qu'elles devaient être à l'arrêt?
Déjà, il y a une sécurité très, très importante sur les centrales. Parfois, on frôle l'excessif. Tu vois, sur les pompes, par exemple, qui sont destinées à refroidir les centrales, il y a 5 niveaux de pompes de secours qui sont là. Tu vois, t'as des pompes de secours, tu as d'autres enterrées. Ensuite, tu as la force d'action rapide de l'armée qui peut amener des pompes. Et là, après Fukushima, ils ont fait encore plein de mesures. Maintenant, ils les enterrent dans des bunkers. C'est-à-dire que si toutes les pompes de secours, il y a une inondation, elles ne sont pas accessibles, il y a un problème. Et si la force d'action rapide ne peut pas venir même, eh ben, on va les chercher dans le bunker. Et on a empilé les sécurités. C'est le prix de la trouille, hein, comme dit Jean Covici, au point où ça devient excessif. Et c'est très lourd pour un EDF, surtout, qui a été cassé par le gouvernement, qui a été flingué par le gouvernement à force de désinvestissement et de marché européen de l'électricité. Et donc, EDF a plein de chantiers devant lui et il n'a pas assez de monde pour les faire. Et ça nous coûte un argent de fou, quoi. C'est, tu vois, Fessenheim fermé, c'est 8 milliards, donc t'imagines, 8 milliards par an, donc t'imagines l'ensemble du nucléaire fermé, c'est une catastrophe pour la France. Et alors, le truc important, c'est que on a la moitié des centrales nucléaires fermées et le gouvernement nous promet que EDF va tout rouvrir pour cet hiver. Moi, franchement, j'y crois pas. Je pense qu'il y aura quand même probablement la moitié des centrales qui vont rester fermées. Ou la moitié de cette moitié, donc un quart. Ce qui veut dire qu'il nous manquera d'électricité en hiver. On a besoin qu'elle produise à fond en hiver. Donc là, on va être obligé d'importer de l'électricité de l'étranger, sauf qu'on ne va pas la trouver. Parce que tu vois, comme tout le monde n'arrive plus à produire de l'électricité en Europe, on n'arrivera pas à trouver de l'électricité à importer si l'hiver a un tout petit peu froid. Et donc, on va avoir des pénuries et en fait des coupures de courant chez les gens, avec toutes les conséquences que tu imagines.
Est-ce que, parce que la Suisse a fait une annonce dernièrement en disant voilà qu'elle coupera l'électricité cet hiver une fois tous les 4 heures. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer en France?
Ah oui, ça va se passer. C'est très probable. Si on n'ouvre pas toutes les centrales nucléaires, ça va se passer. Parce qu'on ne pourra pas importer en hiver alors qu'on aura des centrales nucléaires fermées et parce que les autres n'auront pas assez d'électricité pour eux-mêmes à cause du gaz. Donc on se retrouve piégé. Coupure d'électricité, ça veut dire coupure d'Internet. Donc, tu vois, tout fonctionne sur Internet, ça va être compliqué. Ça veut dire congélateurs qui vont se décongeler. Ça veut dire que vont devenir les malades à domicile qui ont besoin de choses, qui vont mourir. Ça veut dire dans les hôpitaux, il y a des plans de délestage, Divisio l'a dit, qui ont été envoyés aux hôpitaux. Et ça veut dire que pour les entreprises, c'est une catastrophe, elles ne peuvent pas produire. Tu vois, le truc est vraiment grave, très, très grave.
Enfin, on parle quand même de quelque chose. Enfin, je veux dire, dans les années 60, 70, pour aller loin, il n'y avait pas de coupure électrique.
Jamais de la vie. Mais ça fait des années qu'on nous parle de blackout. Hein. RTE dit attention au blackout, faites attention et tout. Et là, on est en train de rentrer là-dedans. Quoi, tu vois. On est vraiment en train de rentrer là-dedans à force de sous-investissement, de financiarisation, ce qu'on disait, et de ne pas s'occuper de nos services publics et de libéraliser le marché de l'énergie avec l'Union européenne. Voilà, les Français sont en train de payer le prix de la catastrophe, malheureusement, que leurs élites leur feront payer sur le modèle libéral et sur toutes leurs bêtises.
Alors, moi, j'ai vu un reportage cette semaine, et d'ailleurs, je connais aussi un commerçant qui m'a montré un contrat qu'il a reçu d'une entreprise qui vend de l'énergie. On explique que l'énergie de ces commerçants, de ces industriels ou du boulanger, du coiffeur, etc., de ce qu'on veut, ou l'artisan, passera d'un prix X à X fois 5. Comment ces gens-là vont s'en sortir ?
Alors, c'est clair, ça, c'est les gens qui ont pris des contrats avec des entreprises pas géniales d'électricité et se retrouvent avec X fois 5. Et là, c'est la catastrophe, quoi, effectivement. C'est la catastrophe.
Quel est le taux de ces entreprises qui ont pris ces contrats avec ces entreprises privées ?
Alors, déjà, en fait, l'Union européenne a empêché la France de continuer le tarif régulé, réglementé, fixe, propre, où tout le monde s'y retrouvait en sécurité avec un prix fixe. Donc, du coup, pour toutes les entreprises au-dessus de 10 personnes. Pour les entreprises de moins de 10 personnes, c'est leur choix si elles sont passées ailleurs. Tu vois. Donc, toutes les grosses entreprises vont se retrouver avec ce problème-là. Super U disait qu'on lui demandait pour l'année prochaine une facture de x2. Il y a des commerçants, c'est des factures qui sont chez ces gens-là, c'est x5. Et donc, du coup, ils ne vont pas s'en sortir. Quoi. Non, ils ne vont pas s'en sortir. Plein de gens vont avoir des problèmes absolument gravissimes. Tu vois, parce que tu multiplies par 10 la facture d'électricité de l'industrie, s'ils consomment un peu, ça va les mettre en faillite.
Et j'imagine que pour celles qui vont s'en sortir ou celles qui essaieront de s'en sortir, leur produit coûtera fois je ne sais pas combien.
Ah bah leur produit, ouais.
C'est-à-dire que l'inflation va encore monter.
Très bien vu. Tu as le problème d'inflation qui est déjà à 7%, mais avec ce phénomène-là qu'on va avoir, ce que prévoient les économistes, c'est qu'aux États-Unis, l'inflation baisse, mais qu'en Europe, elle risque de remonter avec l'hiver fortement parce qu'on va avoir ce phénomène-là. Donc, les gens vont être détruits au niveau de leur pouvoir d'achat un peu plus, ce qui va amener moins de consommation, donc une destruction du tissu économique français, une récession hyper violente et encore plus de faillites d'entreprises qui vont être prises entre la récession et les prix de l'énergie élevés. Tu vois, ça peut être vraiment ce qu'appellent les Anglais une perfect storm. La tempête parfaite est possible cet hiver.
Mais moi, j'ai lu sur un journal économique qu'en Grande-Bretagne, en 2023, l'inflation sera à 18%. Est-ce qu'en France, nous connaîtrons en 2023 une inflation semblable, voire plus importante ?
Franchement, je ne sais pas. Mais on va avoir une inflation plus élevée cet hiver. Et s'il y a des problèmes de pénurie, là, elle va devenir très élevée. Je ne suis pas sûr qu'en Angleterre, ça sera 18%. C'est des projections de Barclays. Après, on verra s'ils ont raison ou pas. Il est possible que l'Angleterre a le même problème d'électricité puisqu'elle fait les mêmes erreurs avec pas assez de centrales nucléaires, trop d'énergie renouvelable et compter sur les voisins pour leur donner de l'électricité. Donc, ils ont les mêmes problèmes que nous.
Donc, et pour les ménages, alors tu as dit qu'il y aurait peut-être 20% d'augmentation pour les ménages. Mais est-ce que l'État pourra malgré tout avoir les moyens de réguler, parce que ça coûtera des milliards de réguler une facture énergétique, même pour les ménages.
Ah ben, ils vont le faire. Hein. De toute façon, là, jusqu'aujourd'hui, toutes leurs bêtises ont coûté 40 milliards d'euros. Elles vont coûter peut-être 50 ou 60 sur l'année, mais ils vont le faire parce que sinon, ils vont être renversés. Mais il y a un moment donné où on va faire payer une partie aux ménages, ils vont essayer de faire payer le maximum aux ménages sans que les gens sortent dans la rue, sans que les gens s'énervent, sans que les gens les virent. C'est ça le but, quoi. Donc, c'est pour ça que j'imagine bien une facture pour les particuliers de 20-30%, tu vois.
20-30%, c'est quand même pas mal.
Mais ce que vont pas voir les ménages, c'est que pendant qu'on les sauve en partie, on tue leurs entreprises, donc on tue leurs emplois et leurs salaires, en fait. Et donc, de toute manière, ils seront pas sauvés, tu vois. Ou alors, enfin, pas complètement sauvés, loin de là, puisque tu dépends de l'économie et des entreprises. Si tu flingues les entreprises françaises, tu n'as plus de boulot et toi-même, tu es mal.
Oui, mais tu vois, regarde, il y a un problème d'énergie. Comme disait à l'époque Chirac, les merdes, ça vole en escadrille. Dans ouais. le sens où, lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'il va y avoir, c'est 150 derrière. Entre l'électricité, le gaz, l'inflation, le chômage de masse, peut-être l'insécurité, les dettes de l'État, les taux d'intérêt qui vont augmenter, ça fait énormément de petites choses, enfin de grandes choses qui s'accumulent.
Ah, tu as raison, d'autant plus que l'électricité, on fait comme si c'était l'hiver prochain. Mais si on continue à se fâcher avec la Russie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'envoyer son gaz à la Chine. Elle est en train de construire des pipelines vers la Chine. Mais après, le gaz, il ne reviendra plus. Tu vois? Donc, le problème qu'on est en train de faire, c'est pour 5 ans. On aura un continent avec une énergie très chère, des pénuries pendant des années. On va tout casser, quoi. Le risque, il est de tout casser s'ils n'ont pas le courage de dire « On a fait des erreurs de dingue qui coûtent des pognons de dingue. On arrête ces sanctions. C'est absurde. » Parce que ce n'est pas aux Français de les payer. Tu vois? Mais je pense qu'ils sont incapables de le faire. Ils n'en ont rien à foutre du peuple français ou du peuple allemand. Tu as vu la déclaration de la ministre des Affaires étrangères allemande
à propos de
gaz et d'électricité? Elle a dit, en vidéo, hein, c'est une vidéo qui circule sur Twitter, authentifiée, elle a dit « Peu importe ce que pensent les citoyens allemands, entre parenthèses, du prix du gaz, etc., nous voulons aider le peuple ukrainien. » En fait, ils n'aident pas leur peuple. Elle ne tient pas ses engagements derrière le peuple allemand qu'elle a pris et qu'il a élu. Elle préfère tenir les engagements du peuple ukrainien. Tu vois, c'est cette haine de soi qui est en Europe, qui se manifeste aussi sur la préférence pour toujours plus d'immigration quand les gens disent non, aussi, qui est en train de tuer complètement l'Europe. Quoi, tu vois, ces gens détestent l'Europe, quoi. Détestent leur peuple.
Mais quel sera le niveau de vie des Français dans un an, avec tout ça derrière?
Écoute, sur l'Europe, là, en fait, il faut voir que les Français sont, entre parenthèses, ça se passe très mal, mais en Europe, comme il n'y a pas d'électricité nucléaire, et aujourd'hui, on produit ce qu'il faut à peu près, hein. En été, on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité, qu'il n'y a pas eu de bouclier tarifaire dans beaucoup de pays d'Europe ou beaucoup plus petits, en fait, les baisses de niveau de vie en Europe, c'est 7%. Tu vois, le salaire, c'est 2% de hausse, c'est à 9% d'inflation, 7% de niveau de vie, tu vois, c'est considérable. En France, c'est 5%. Et donc ça va continuer et aller plus loin. Après, je suis incapable de dire le niveau exact dans un an de l'inflation, du pouvoir d'achat. Ce n'est pas encore écrit, mais ça va être encore pire dans un an. Et puis, tu sais, l'avenir ultime des pays qui ne se défendent pas et qui font n'importe quoi, c'est la libanisation, tu vois. Au bout d'un moment, le Liban qui a fait n'importe quoi pendant des années, trop de dettes publiques, une monnaie trop chère, etc., un déficit commercial massif, ils ont divisé par 10 le PIB en 3 ans, tu vois, enfin le niveau de vie, pardon, en 3 ans, puisque les gens, la monnaie s'est effondrée, que le pays ne fait qu'importer, ne produit rien, elle a divisé par 10 la monnaie, et donc le niveau de vie des gens a divisé par 10, et les Libanais sont dans des problèmes, mais insolubles, ils sont passés d'un pays riche à pays du tiers-monde directement, tu vois. C'est ça qui peut nous arriver si les gens ne bougent pas, c'est ça qui nous arrivera un jour.
Alors une petite blague quand même, hein. Histoire d'être un peu marrant. David, Jean 11, 25, éteignez votre compteur, Linky, et criez « Tiens, Poutine !» Voilà, c'est pas intéressant.
Prends ça, Poutine, voilà.
Voilà, prends ça, Poutine. Mais bon, je le conseille pas parce que quand même, je pense qu'il faut être un peu électricien pour pouvoir toucher à ce truc, non?
Non, bien sûr, il faut pas toucher à ça.
Ouais, vous ne touchez pas, hein, surtout pas. Ne dites pas après, ouais, j'ai pris un coup de jus parce que j'ai écouté l'émission, j'ai éteint mon Linky. Ne faites pas, hein, s'il vous plaît.
Tu te rends compte, Mike, on a quand même des gens qui prennent des sanctions contre la Russie, qui enrichissent la Russie à milliards et qui appauvrissent la France. Voilà. On a vraiment des génies au pouvoir.
Et on a, faut se dire les choses, des fous. Mais dis-moi, est-ce que les gens, le particulier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Voilà. Quelle serait leur solution aujourd'hui contre tout ça?
Alors, la solution politique, on va la donner, peut-être.
Oui. Voilà. Vois,
la solution politique. Alors, bien sûr, c'est dur de réagir en urgence quand, d'un coup, tu as des risques sur le gaz, tu as des risques sur l'électricité, etc. Mais la solution politique, la première, ça serait de sortir du marché européen de l'électricité, tout de suite. L'Espagne et le Portugal ont réussi parce qu'ils sont très peu connectés à l'Europe, donc l'Union européenne a dit oui, ils ont les prix de l'électricité deux fois plus bas qu'en Europe, quoi, tu vois, grâce à ça. Parce qu'ils ont pris plein de mesures intelligentes, de court terme, certes, mais qui permettent d'éviter cette spéculation. Donc, sortir du marché européen de l'énergie et de l'électricité, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est donner beaucoup d'argent et dire à EDF, maintenant, vous embauchez comme des dingues des ingénieurs, on veut réparer tout ça, on veut que les centrales marchent et on est sur 5 ans, 10 ans, un programme long pour faire fonctionner au mieux nos centrales. Et puis, construire, bien entendu, dire qu'on va construire d'autres centrales et emmener toute la filière. Puisque, tu vois, on a un problème d'énergie fossile. Troisième chose, bien entendu, il faut renoncer aux sanctions contre la Russie, qui sont en fait des sanctions contre la France. Il faut le courage de le dire. Ça n'aide pas du tout, d'ailleurs, l'Ukraine, puisque la Russie a de plus en plus d'argent grâce à notre bêtise totale. Et c'est nous qui nous appauvrissons. Et juste une dernière chose, on dit que ces sanctions sont morales parce qu'elles aident le peuple ukrainien. Déjà, c'est faux, mais en plus, c'est en train d'appauvrir le monde entier. Parce que ce qui se passe en Europe, ça a fait exploser les prix du gaz dans le monde entier et qui sert à faire de l'électricité dans des pays du tiers-monde. Donc, tout le tiers-monde, les gens sont en train d'avoir des problèmes à cause de nos conneries de dirigeants d'Europe. Ça suffit, quoi.
Mais on a aussi un autre problème, c'est qu'on donne des munitions et des armes aux Ukrainiens. Et nous, on se désarme, quoi.
Ça, c'est clair. Et évidemment que les Russes, on dit, ils ne sont pas gentils, ils coupent le gaz. Bon, déjà, on avait dit qu'on allait le couper, le gaz avec la Russie. Mais en plus de ça, on fournit des armes qui vont tuer des soldats russes. Donc, évidemment que ce n'est pas génial. Et en plus, ça appauvrit. On a un tiers des canons César qui sont partis, je crois, vers la Russie, quoi.
Mais dernièrement, l'État a annoncé qu'il allait nationaliser EDF. Là, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est peut-être une bonne chose qu'ils ont faite ? Peut-être la seule bonne chose. Justement, en nationalisant, ça va donner de bonnes perspectives pour EDF ?
Bah, tu vois, c'était ce qu'on avait mis dans le programme économique. Moi, j'avais pesé dessus et on avait mis ça. Nationalisation d'EDF, fin de la privatisation. Et bien sûr, toutes les télés avaient dit « Ah, mais ils sont vraiment débiles au Front National, ils veulent nationaliser EDF. » Bah, non, là, à cette époque-là, il y avait de bonnes idées. Évidemment qu'il faut la nationaliser, la sortir de la bourse. De toute manière, on va ruiner tous les gens en bourse, sinon. Et puis, surtout, tous les gens qui ont des actions EDF, la sortie de la bourse. Et maintenant, faire du long terme. C'est-à-dire, pas faire de la com, dire des bêtises, mais faire du long terme, investir sur le long terme, prendre son temps. Mais bon, ils en sont incapables, hein, t'as vu. Ils n'ont pas su sauver l'école et l'hôpital. Ils ne sauront pas plus sauver EDF. Je ne crois pas.
Donc voilà, donc ça, c'est tu as donné les solutions de ce que l'État pourrait faire. Est-ce que les gens peuvent se protéger de tout ça ? Les gens en tant qu'individus ?
Alors, c'est pas simple, mais c'est pas simple parce que produire ton électricité tout seul, c'est pas facile. Tu peux produire du solaire ou de l'éolien, mais si tu veux, ça va produire un quart du temps ton panneau solaire, tu vois. Donc ça, c'est pas simple. Par contre, pour l'énergie, bah, tu peux mettre... au lieu d'avoir du chauffage électrique pour ton eau, tu peux avoir du chauffage, tu sais, mettre des installations passives, des chauffe-eau solaires passifs. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est une bonne chose. Ça économisera sur la facture. C'est une bonne chose. S'équiper en poêle à bois, c'est une bonne chose aussi, même si le bois aussi va monter, bien sûr. Hein, le prix du bois montera, mais moins que celui du gaz. Voilà. Et puis, essayer de cultiver son jardin parce qu'il y a un risque aussi sur l'alimentation à terme. Parce que nos producteurs d'engrais n'ont pas assez de gaz et ne produisent pas d'engrais en Europe, quid de la récolte 2023, il y a un risque. Je regrette de le dire, parce que ça ne m'amuse pas, mais il y a un risque. Donc, produire un peu…
Il y a quelque chose comme risque, c'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, en 2023, on va manquer de salade, de carottes, de choses comme ça.
S'il n'y a pas assez d'engrais, tu vois, toute l'Europe qui est un gros producteur d'engrais ne produit pas, on ne veut pas acheter la Russie, on risque à un moment donné qu'il n'y ait pas assez d'engrais. Et donc, s'il n'y a pas assez d'engrais, il y aura un problème, tu vois, sur nos productions. On produira moins. Donc, il y a un vrai risque sur l'alimentation. Pour la prochaine récolte, pour 2023, il y a un vrai risque. On est en train de faire vraiment des grosses bêtises là-dessus. Donc, autant avoir un jardin si on peut le faire, quoi. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et puis, de faire du troc, d'essayer d'avoir des liens avec d'autres gens qui sont dans le même état d'esprit pour essayer de s'entraider sur des talents qu'on a qui sont différents et complémentaires.
Tu aurais pensé dire ça il y a 2 ans?
Ah non, moi j'ai toujours été sur une solution politique pure, en disant on va s'en sortir, voter pour des souverainistes, pour la souveraineté, des solutions politiques. Simplement, là, les solutions politiques, pour le moment, elles sont reculées à plus tard. Malheureusement, les grands partis politiques trahissent tous le peuple français en refusant la souveraineté, alors qu'il y a ça qui peut nous sauver. sortir de l'Union européenne, la souveraineté. Et malheureusement, il va falloir rester vivant pendant cette période. Il va falloir tenir, quoi.
Mais Florian Philippot a dit hier en manifestation que, un truc que je n'aurais pas cru voir moi non plus d'ailleurs, que les parlementaires sont en vacances. Ils sont en vacances et du coup, ne se passe rien au Parlement. C'est vrai, ça ?
Ouais, Macron les a mis en vacances jusqu'à début octobre pour faire toutes ses magouilles et prendre toutes les décisions importantes. Macron, quand il n'a pas la majorité parlementaire, il met en grève le Parlement, il le met en vacances, comme ça il peut bosser sans la démocratie et sans les représentants du peuple, tu vois. Et donc, il les a foutus en vacances. Mais franchement, il pourrait bosser. Et puis, tu vois, entendre Marine Le Pen dire « En fait, il faut baisser le tarif de la TVA. Victoire, l'Espagne l'a fait, Macron doit le faire. » C'est d'une bêtise incroyable. Parce que si tu veux, le problème pour les ménages, il n'est pas sur le gaz. L'État paye la moitié de leur facture de gaz, qui aurait dû doubler. Donc, on ne va pas donner en plus une baisse de TVA pour les ménages. Le problème, il est pour les entreprises. Et les entreprises, une baisse de TVA, ça ne leur change rien pour elles, tu vois. Donc, il faudrait peut-être un peu bosser et raconter des choses intéressantes et proposer. Parce que, tu vois, si c'est pour être dans la démagogie et dire « Ah ben, on va tirer sur le chèque de l'État pour filer du pognon à tout le monde », c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir comme ça.
Bien sûr. Mais est-ce que, pour le coup, toutes les erreurs qui ont été faites sur l'énergie, et donc les conséquences qui arrivent pour l'énergie, ce n'est pas aussi peut-être une aubaine pour l'État, peut-être même l'Union européenne, pour mettre en place ce fameux pass énergétique, écolo, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler.
Bah disons qu'à chaque fois qu'ils font des erreurs, tu vois, à la fin, c'est nous qui payons. Là, c'est très clairement le cas. Ils ont fait une erreur, il n'y a pas assez d'énergie, ils vont nous mettre des tickets de rationnement d'énergie. Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a des tickets de rationnement pour la viande. Et donc, ils se proposent de mettre un pass carbone pour nous contrôler et nous forcer à consommer moins d'énergie. Ah, t'as consommé trop de chauffage, Mike, jusqu'au 22. Eh bien, du 22 au 31, tu n'auras pas de chauffage chez toi. Tu vois, ça va être ça. Ou tu as consommé trop d'essence, eh bien, tu n'auras plus d'essence pour ta voiture. Attends le début du mois. Tu vois, donc, et ça, effectivement, c'est parce que comme ils sont incompétents, qu'ils savent que les gens ont envie de les virer, qu'ils sont en colère, eh bien, le seul truc qui leur reste, c'est l'autoritarisme et priver les gens de liberté.
Tu penses qu'ils vont le faire, ça ?
C'est très possible. Ils envoient tous les signaux pour le faire. Dans Le Parisien, le journal de Bernard Arnault, ils ont envoyé tout un article dessus. Ils en parlent dans plein de forums économiques, des forums économiques mondiaux et dans d'autres endroits de ces passes carbone. Petit à petit, l'idée avance, quoi, très clairement. Et c'est une idée de gestion de problèmes à court terme, mais c'est aussi une idée de surveiller, tracer et contrôler les citoyens pour les empêcher qu'on les vire de pouvoir.
Est-ce que ça peut être une arme pour que justement les gens, cet automne, cet hiver, n'aient pas de révolte ?
Bah, ça peut aider, quoi. C'est une arme. Et puis surtout, quand disons qu'ils sont en train de mettre un panoplie de surveillance, tu vois, ils avaient mis le pass sanitaire vaccinal. Quand ils auraient mis l'identifiant numérique sur Internet pour les particuliers, au nom des cyberattaques pour vous protéger, au nom de protéger votre argent, ils vont vous mettre l'euro numérique, tu vois, protéger les banques. Et ben là, quand tu seras dans le crédit social chinois où tu seras surveillé de partout, tu ne pourras plus te connecter à Internet sans avoir l'avis du gouvernement, plus te déplacer, etc., sans avoir l'avis du gouvernement, plus dépenser des achats, dépenser dans les commerces sans avoir l'avis du gouvernement qui peut te couper, ça s'appelle le crédit social chinois. Et là, une fois qu'ils sont là, tu ne peux plus bouger. Tu as un petit Chinois qui doit se taire et qui doit avancer comme t'as dit le gouvernement, sinon on dégrade ta note, tu ne peux plus rien faire.
Est-ce que justement, ça te rend pessimiste sur la révolte des gens vis-à-vis du pouvoir ? Parce que toi, tu as dit, voilà, si les gens refusent cet état de fait, l'État ne pourra pas le mettre en place. Mais là, est-ce que ce sera l'outil qui va faire que, bah, justement, ils pourront mettre toutes leurs mesures en place ?
Bah déjà, il y a ces outils-là que le pape doit refuser coûte que coûte, et il faut qu'il se bouge pour les refuser. Et puis, ça va mettre quelques années. Il y a 2-3 ans avant que tout ça arrive et soit prêt. Mais dans ces 2-3 années, il faut se bouger. Sinon, quand les trucs sont en place, je ne sais pas dans combien de temps, peut-être dans 3 ans, 5 ans, et bien là, c'est terminé. Tu ne peux plus bouger, tu es
plus. Tu sens le peuple qui a envie d'en découdre ou pas ? Comment tu le sens, toi, autour de toi, des gens que tu peux croiser ou qui viennent te parler ?
Il y a une sorte de... Il y a une grosse colère, mais en même temps, les gens n'osent pas y aller, quoi. Tu vois, les gens n'osent pas y aller, sont très individualistes pour l'instant. Il y a des gens qui se réveillent, il y a tous les gens qui sont réveillés avec le Covid. Ils sont réveillés pour longtemps, ils ont compris. Ils sont aussi réveillés pour l'Ukraine, pour l'énergie. mais ça ne va pas assez vite. Il faut qu'il y ait plus de gens qui viennent, sinon on n'y arrivera pas, très clairement. Sinon, on n'y arrivera pas. Et puis, il faut faire des mouvements de résistance, mais il faut aussi construire une force politique puissante pour contrecarrer le gouvernement. Pour pouvoir chasser ces gens du pouvoir, il faut qu'on ait une force politique. Donc, il faut aller beaucoup plus vite.
Mais comment on construit cette force politique? On s'est parlé un peu en antenne, tu m'as dit, hein, Front Populaire a envie de monter une liste aux européennes. Ça veut dire que Front Populaire, qui est un mouvement souverainiste, a envie en gros de jouer solo, comme tous les souverainistes, en gros, si je puis dire.
En fait, ça ne va pas du tout. Si tout le monde joue solo, si chacun segmente, tu vois, moi je dis, ah ben moi je suis souverainiste mais écolo, donc je monte mon mouvement. En fait, on va diviser des petites voix en quatre, et là, on ne peut pas y arriver. Je pense que les gens ne nous font pas confiance parce qu'on n'est pas rassemblés alors qu'on a le même projet à chouïa près, on est dans la même distance. Il y a besoin de tous se rassembler pour avoir le maximum de figures, le maximum de travail intelligent, le maximum de travail sur le terrain avec les militants, et puis qu'on donne l'espoir aux gens. Tu vois, si Onfray, Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, Gallois, Aberkane, Rougeron, nous, etc., on y va, on va pouvoir créer quelque chose. Et après, on va pouvoir s'engouffrer et monter une force puissante. Mais si on continue à se disperser, ça ne peut pas le faire. C'est pas possible.
Et comment créer l'union?
Bah écoute, c'est aux chefs d'en discuter ensemble, tu vois, et d'accepter de créer cette union, d'aller au bout du truc, de ne pas se présenter seul, tu vois.
Est-ce que tu as espoir?
Le premier pas qui a été fait avec Dupont-Aignan, Philippot et Génération Frexit pour la présidentielle, maintenant, il faut aller plus loin et créer un seul parti. Moi, c'est vraiment ce que je pense, parce qu'on aura beaucoup plus de moyens pour travailler, on donnera beaucoup plus d'espoir et on va avoir des résultats très bons si on fait ça.
Mais est-ce que ces leaders se parlent entre eux? Est-ce qu'ils veulent travailler ensemble? Toi qui es plus dans le truc que moi, comment tu le vois?
Ils se parlent entre eux. Après, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? J'en sais rien, j'espère. Je pense que c'est tout leur intérêt et j'espère qu'ils le feront. Et ils se parlent. Après, moi, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas jusqu'où, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, tu vois.
Tu es quand même un peu pessimiste pour le coup.
J'en sais rien. Je suis un petit peu inquiet parce que là, ça ne vient pas alors que c'est maintenant qu'il faut y aller. Tu vois, ce n'est pas 6 mois avant la présidentielle qu'il faut faire l'union ou avant les européennes, 3 mois avant les européennes. Il faut le faire le plus tôt possible pour donner de l'espoir aux gens. Et là, constituer une force de frappe qui va se développer, t'as un effet de boule de neige. Marine Le Pen, tout le monde voit qu'elle n'a pas les compétences, qu'elle a fait élire des députés qui ne sont pas au niveau, que tout ça, ça ne va pas, que de toute manière, c'est ridicule. Elle veut arrêter l'immigration en n'ayant pas de frontières parce qu'elle veut rester dans Schengen, tu vois. Il faut arrêter de se moquer du monde, quoi. Tu vois, tu n'as pas de frontières, mais tu contrôles l'immigration. Comment? On ne sait pas. Donc, elle a trahi tout le monde. Et donc, il faut en profiter pour essayer de monter des forces puissantes parce que le peuple soutient le Rassemblement national et Marine Le Pen du bout des doigts. Il vote pour elle parce qu'il n'y a rien d'autre, entre guillemets. Après, c'est aussi au peuple à voter pour les partis qui ne sont pas les plus gros au départ, pour les faire monter rapidement. Sinon, on ne s'en sortira pas.
Alors, toi, tu es souverainiste, tu es contre l'euro. Est-ce que tu penses comme, par exemple, Olivier Piacentini et d'autres économistes, oui, que l'euro va finir très bientôt par se casser la gueule?
Écoute, j'espère, mais et c'est vrai qu'il y a de tels écartèlements économiques en Europe que ça peut se casser la gueule tout seul. Mais il faut comprendre qu'ils vont tout faire pour le tenir. Ils l'ont fait en 2013. L'euro était au bord de l'implosion. L'Italie était au bord de la faillite. Elle empruntait à 7%, si tu veux. On était en train de partir comme la Grèce, l'Italie. Et là, ils ont dit, quoi qu'il en coûte, on sauve l'euro. J'ai peur qu'ils essayent de le faire à tout prix. Après, il y a peut-être des choses, des inflations très différentes entre les pays qui vont finir par l'imposer. Mais je pense qu'il vaut mieux dire, on a un programme politique pour sortir de l'euro, ce qui est quelque chose d'extrêmement simple, plutôt que de compter sur la chance et le chaos pour que l'euro saute, tu vois.
Oui, mais est-ce que l'Union européenne peut sauver l'euro, sachant qu'on est dans une situation moins bonne encore qu'en 2013?
C'est vrai, mais ils feront tout. Là, ils feront tout pour sauver l'euro.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Ouais, bah, ils feront des programmes. L'Allemagne n'a pas intérêt à ce que l'euro saute au moment où elle est en train d'avoir son industrie qui est mal à cause du gaz. Si en plus les Italiens, les Français lui taillent des courbières parce qu'ils ont une monnaie moins chère, ils n'en ont pas intérêt, tu vois. Donc, ils vont essayer de donner de l'argent, de créer de la monnaie pour le tenir le plus possible. Tous les mécanismes possibles pour te faire tenir l'euro le plus possible. Parce que l'euro, c'est la pointe de diamant qui tient un peu toute l'Union européenne, tu vois.
Oui, mais si ils créent ça, ils vont finir par faire encore monter l'inflation.
Ah oui, tout à fait. De toute manière, l'avenir du continent européen et de la France est mortifère sous l'Union européenne. c'est la délocalisation vers la Chine parce qu'on a l'énergie trop chère et des salaires plus hauts, parce qu'on n'a pas de protectionnisme, c'est l'implosion de l'euro, l'explosion de nos dettes publiques, tout va mal se passer dans l'Union européenne. Mais ils vont essayer de tenir le plus possible. Pourquoi ? Parce que eux, toute leur carrière politique est basée là-dessus. Et toute la carrière politique des Macron, des LR qui ont menti sur l'Union européenne, des centristes, des médias aussi, de tous les journalistes, est fondée sur l'Union européenne, ça se passe bien. Donc ils vont mentir, ils vont essayer de tenir cette Union européenne parce que sinon ils sautent tous, tu vois, ils ont peur de tous sauter.
Moi, tu vois, le truc que j'ai peur, c'est qu'on sait que ça va mal. Voilà, on sait que ça va mal. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'à force de donner de l'argent et qu'ils vont encore continuer à donner de l'argent, les gens choisissent de voir leur niveau de vie chaque année baisser un peu en se disant, bon, c'est pas grave, on n'est pas dans la nasse, donc on peut, on a encore la télé, on a encore Netflix, bon, ça va encore, quoi.
Écoute, tu sais, ça, personne ne peut y répondre. Si les Français ont envie d'avoir une vie d'esclave et d'accepter que l'oligarchie se gave pendant qu'eux peinent à vivre, ils auront une vie d'esclave. S'ils décident de se révolter, de se bouger, de faire du collectif, ils gagneront et renversera sans problème ce pouvoir. Et là, ils auront une plus belle vie pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Moi, je pense quand même qu'on est à l'os, tu vois, parce que les gens, ils commencent à plus pouvoir manger. Hein. Il y a les parties les plus pauvres commencent à plus pouvoir manger. Des gens qui travaillent n'arrivent plus à manger. Donc, il y a un moment donné où tout ça, ça crée une colère, ça oblige à se révolter. Après, je ne connais pas l'avenir, mais l'avenir, on le décidera ensemble en se bougeant, tu vois, en prenant des décisions. Et en allant travailler politiquement pour notre avenir en commun.
Mais alors, j'ai une question économique là, de Coco Janeria. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Voilà, vous êtes vraiment le but. Voilà, vous avez un économiste face à vous, un économiste de haut niveau. N'hésitez pas à lui poser des questions. Alors, que pense M. Philippe Murer du franc libre du capitaine Jubin Brunet ? Tiens, c'est une question qui arrive souvent dans les forums.
Moi, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Bon, de toute manière, c'est très compliqué de faire… En fait, il y a des monnaies, dans les périodes de grande crise, il y a des monnaies comme ça qui se mettent en place, des monnaies locales, qui permettent d'amortir un peu le choc. Elles ont un effet assez faible, mais quand même, elles permettent d'amortir le choc. Ça permet aux gens d'échanger des choses. Le franc libre, là, Jubin Brunet veut créer le franc libre en achetant des actifs avec tout ça. Bon, après, il va falloir gérer comment… Moi, je ne sais pas comment… Parce que je n'ai pas le détail, est-ce qu'il pourra gérer ce franc libre ? Est-ce qu'il trouvera des gens pour gérer les actifs qui ont été faits ? Franchement, je ne sais pas.
Mais est-ce que c'est intelligent, justement, de prendre de l'argent pour acheter des terrains ? C'est peut-être une bonne idée, non ?
C'est vrai, mais après, il faut les gérer, tu vois. Après, faut
mais imaginons qu'il a tout ce qu'il faut pour gérer. Est-ce que l'idée en elle-même est intéressante ou pas ?
Oui, si tu as tout ce qu'il faut pour gérer, c'est intéressant, quoi. Voilà. Mais il faut avoir des gens pour le gérer, pour faire en sorte que… Tu vois, tu mets des gens sérieux sur ces terres pour produire des choses, tu vois, parce que sinon, ça va être de l'argent balancé pour rien. Donc, s'il a des équipes pour bien gérer tout ça, ça peut donner quelque chose. Mais moi, je ne connais pas le détail du projet, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus.
D'accord.
Ce détail n'est pas connu pour l'instant.
Bon, malgré tout, je vais te poser cette dernière question. Est-ce que tu es, après tout ce qu'on s'est dit, parce que voilà, on se dit les choses quand même pour informer les gens, on n'est pas là pour être pessimiste, pour leur dire que nous allons tous mourir, mais… est-ce que toi, quand même, malgré tout, tu es confiant dans l'avenir de la France ?
Alors, en fait, je suis confiant qu'on va s'effondrer dans les prochaines années. Est-ce que on va mettre le truc tout, on a tous les moyens pour se redresser ? Est-ce que les Français en auront envie ? Est-ce que les Français en ont le courage ? Est-ce que les Français ont envie de se battre pour leurs enfants ? Et est-ce que les enfants ont envie de se battre pour leurs avenirs et les étudiants ? Ça, c'est une vraie question. Je n'en sais rien. Je te le dis, je n'en sais rien. Tu sais, après, il ne faut pas essayer de trop prévoir. Parce que moi, j'étais un peu désespéré au début du quinquennat Macron quand il nous mettait toutes ces réformes pour enrichir les plus riches, baisser leurs impositions, augmenter les prix de l'essence. Tu as eu les gilets jaunes qui ont survenu, qui ont été une tempête politique, tu vois. Okay, moi, je connais pratiquement personne qui l'a vu venir. Donc, tu vois, soyons humbles et bossons collectivement parce que tu ne peux pas prévoir l'avenir là-dessus.
Alors, vraiment, dernière question, parce qu'il y a une super question qui est intéressante qui arrive. Question pour Monsieur Murer. Le vrai problème n'est-il pas la raréfaction de l'énergie et matières premières sur Terre ?
Alors, c'est exactement, tu vois, pour ça que j'ai fait mon premier bouquin et mon deuxième bouquin comment réaliser la transition énergétique, un défi passionnant. J'explique tout sur les métaux, est-ce qu'ils sont rares, pas rares, quels sont les problèmes. Oui, il y a grosso modo un problème d'énergie fossile qu'on peut régler très bien par le nucléaire. En France, on n'a aucun problème, il y a des réserves d'uranium, il y a du thorium pour faire ensuite de l'énergie nucléaire différemment. On a 4000 ans de réserves pour faire avec les réacteurs de quatrième génération de l'électricité en France, 4000 ans de réserves. Donc, il n'y a pas de souci. Après, il faut mettre des gens différents au pouvoir pour faire de la planification, pour faire un plan pour avoir plein d'énergie nucléaire au lieu d'avoir plein d'énergie fossile. Sur la raréfaction des métaux, oui, il a complètement raison. Il y a certains métaux qui sont en train de se raréfier, c'est inquiétant, parce qu'on a besoin de tous les métaux, tu vois. On ne peut pas dire le cuivre pour l'électricité, on n'en a plus besoin, on va prendre du fer. Bon, ça ne marchera pas comme ça. Donc, il faudra juste tout recycler. Et tu vois, si tu as assez d'énergie, c'est pour ça qu'il faut avoir assez d'énergie, dans ce cas-là, tu peux tout recycler avec un système bien organisé de 3 poubelles comme à San Francisco, le zéro déchet. On peut quasiment tout recycler.
Le cuivre, ça peut se recycler, c'est ça?
En France, on recycle 80% du cuivre et 90% du fer, si je ne me trompe pas. Mais on peut pratiquement aller sur du 100% pour être dans une économie où on n'a pas besoin d'aller, tu vois, faire de nouvelles mines tout le temps. Et ça, on peut le faire.
Mais
pour
ça, par exemple, le gaz, ça peut se raréfier.
Mais ça, on s'en fout parce que si tu veux, le gaz, le pétrole et le charbon, on peut le remplacer par du nucléaire pour l'électricité. D'accord. Et par de l'électricité propre ou de l'hydrogène fait à partir de ça pour l'essence. L'hydrogène, l'essence de demain, on sait faire. Il n'y a plus que l'État mette les moyens, qu'on ait un grand plan avec les entreprises privées pour y aller. On a des trains à hydrogène pour remplacer les trains diesel. Tu vois, qui ne sont pas électrifiables sur les petites lignes. On sait faire ça, on les a vendus.
Mais si demain, on a 15 millions de voitures électriques en France, on pourra, par l'énergie nucléaire, les…
Ah oui, sans problème. Il faut juste construire une… Alors, je n'ai pas fait le calcul là récemment, donc je n'ai pas le truc, mais c'est grosso modo, il faut construire 20 centrales nucléaires pour alimenter les voitures. Même pas pour alimenter tous les transports en électricité. Tu vois. Mais le problème de la voiture électrique, il est autre, c'est que ça tire trop sur le réseau. Donc, on peut avoir des voitures électriques pour les villes, mais de toute manière, c'est le bordel à recharger. Il faudra avoir des prises partout, défoncer tous les trottoirs. Donc, tu vois, partout, bah, des immeubles, dans les routes, dans les villes. Il faudra en avoir partout sur les autoroutes, en quantité, pour les vacances. C'est ingérable. C'est pour ça que je pense que la voiture hydrogène, c'est complémentaire et c'est beaucoup plus intéressant. Tu fais ton plan en 3 minutes et pas en 1 heure en faisant la station, des queues à la station. Et tu peux faire l'avion hydrogène, tu vois, le groupement de l'industrie aéronautique, il dit, si on met les moyens, sans problème, l'avion hydrogène, on le sort pour dans 10 ans. Dans 10 ans, on a un avion hydrogène, et donc on produit l'électricité en France avec des emplois français, au lieu de le produire avec, tu vois, avec du kérosène en cramant la planète et en chialant. Mais tu vois, après, il faut arrêter de chialer, il faut bosser, et il faut être positif pour l'avenir, et bosser pour savoir ce qu'il faut faire.
Merci beaucoup, cher Philippe Murer. Si tu as une actu, n'hésite pas à nous la dire.
Non, je n'ai pas une actu. Je réfléchis à écrire un bouquin.
Écrire un bouquin, peut-être.
Je réfléchis à écrire un bouquin, l'écologisme contre l'écologie, pour montrer que l'écologisme, tu vois, d'Europe Écologie Les Verts, de l'Union Européenne, tout ça, c'est en train de tuer la défense de l'environnement et qu'il y a d'autres solutions un peu différentes. Je réfléchis à ça, tu vois.
En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant.
Merci.
Prochain live géopolitique profonde jeudi soir, parce que dimanche prochain, moi je suis à Strasbourg avec Virginie Joron, je dois faire une émission avec elle, donc je ne pourrai pas dimanche. Donc ce sera jeudi soir avec Guy de Lafortelle. Merci beaucoup, cher Philippe, et passez tous une excellente soirée. Allez, ciao.
Très bonne soirée à tous.